Donc, je vous remercie. Nous le considérons comme adopté définitivement et sans réserve. Nous avons, par rapport à l'ordre du jour, une question. Non, ce n'est pas un point à rajouter, oui. Il y a une question que M. Bourguet a posée que nous aborderons sur les compteurs Linky. Je vous répondrai en question diverse. Hein.
D'accord.
Voilà. Voilà, donc, avant de démarrer ce conseil municipal, avant de démarrer le premier point, je tenais à dire que s'est tenue la semaine dernière, mardi dernier, une conférence de presse le mardi 24 juillet sur la faune Mugio, et que nous avons donc acté qu'une première tranche allait se faire en 2020-2021. Attendez, je vous donne le. Sur le site de leur aménagement, vous aurez une première tranche 2019-2020, dont il y a 210 logements qui vont se faire, et que nous aurons dans ces 231 logements, donc 136 mètres carrés de bureaux, 221 mètres carrés de commerce, un pôle médical, 133 logements collectifs libres, 11 logements participatifs individuels, puisque nous avons passé un contrat avec l'association Écolor, donc pour justement lancer cet habitat participatif avec des personnes qui ont envie de participer à la construction du projet de logement. Donc, CFDI qui sera le bailleur social. Donc, il y aura 11 maisons individuelles et 14 appartements qui seront dédiés aux seniors. Voilà, donc c'est l'habitat participatif. Donc, nous avons signé une convention avec le collectif, l'association Écolor, FDI Habitat, leur aménagement. Il y aura 57 logements locatifs aidés collectifs et semi-collectifs, donc nous arrivons à 25%, nous avons augmenté les pourcentages, M. Pradeil, pour un ensemble de l'opération qui sera 31%. Et puis je tenais à dire que nous aurons 31 lots à bâtir individuels, et qu'à aujourd'hui, nous avons 230 demandes pour ces 31 lots à bâtir. Voilà. Et que la question qui brûle les lèvres à toutes les personnes qui sont désireuses d'avoir un logement, c'est de dire comment allez-vous faire pour retenir ma candidature. Eh bien, la réponse, c'est que vraisemblablement, après analyse des dossiers, c'est-à-dire de la solvabilité des personnes, de la capacité à rembourser ainsi de suite qui sera faite par les services de leur aménagement, eh bien, il y aura vraisemblablement un tirage au sort par huissier pour les personnes qui seront toutes demandeuses du même postulante du même lot. Voilà. Je tenais à le dire de manière officielle parce que beaucoup de bruit circule, tout le monde recommande tout le monde. Bien entendu, les Melgoriens seront les premiers intéressés, les Carmonais, mais pour autant, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et quand c'est un promoteur privé, il choisit qui veut. Quand c'est une entité publique, elle doit le faire de manière la plus égalitaire possible. Et l'égalité, ben, ce sera des fois le sort qui en décidera dans des conditions qui seront équitable pour ne pas qu'il y ait des frustrations, même si je peux comprendre que sur les 230 candidats, il y en a 200 qui ne seront pas contents. Voilà. Donc, un projet qui démarre enfin, dont on vous tiendra bien sûr informé, à supposer que vous ne soyez pas, ce que je ne crois pas, puisque il est sur les fonds baptismaux depuis plus de 10 ans. Voilà, donc nous passons sans tarder au. Alors, un point d'information. Donc, il s'agit d'un avis rendu par la Chambre régionale des comptes suite à la saisine de Mme la sous-préfète de l'Odève. J'informe les membres du Conseil municipal de l'avis budgétaire rendu par la Chambre régionale des comptes Occitanie sur le caractère obligatoire de la dépense d'un montant de 400 euros correspondant aux frais d'une formation dispensée le 6 février 2016 à une élue municipale par l'Association nationale des élus locaux d'opposition, AELO. Bon, en clair, en décodé, Madame Combarnos avait participé à une formation de son propre initiative. La mairie s'était interrogée sur le fait de payer cette formation. Effectivement, la commune doit la payer, elle l'a payée, pour qu'elle puisse être... pour que Mme Combarnos puisse en être bénéficiaire. Voilà. Donc, je tenais à me faire... Comment ? Oui, madame, et bien entendu, elle a participé à la formation. Monsieur Bordet ?
J'ai deux questions.
Oui.
Je voudrais savoir quelles sont les bonnes règles du conseil municipal, puisqu'on n'a pas fait de vote après ce que j'ai lu sur les formations, sur quel est le montant envisagé. Je voudrais savoir le montant annuel par élu qui était pressenti. Donc, quelles sont les règles ? Deuxième question, je voudrais savoir à peu près en moyenne, ou du moins l'an dernier, quelles sont les hauteurs de budget de formation liquidé, c'est-à-dire est-ce qu'il est consommé à la moitié, aux trois quarts, ou entièrement.
Bon, écoutez, on vous apportera ces réponses, M. Pradet. Il y a deux têtes, je ne peux pas vous dire. Oui, combien on a ? 5 000 euros ? Sur la consommation, on vous apportera des éclaircissements. Il y a bien sûr les formations qui sont régulièrement, dont vous êtes informé avec le centre des élus locaux, le CEFMEL, hein, voilà, qui arrive régulièrement, qui propose des formations, un coup à Bédarieux, un coup à Montpellier, un coup à Béziers, voilà. Et après, il y a des formations beaucoup plus pointues, qui méritent effectivement des approches plus pointues, puisque 5 000 euros pour 30 personnes, c'est pas énorme, hein. C'est pas beaucoup, pour 33. Voilà. Et donc.
En fait, on fait une formation, on se rapproche de vos services.
Oui. Mais oui, bien sûr. Oui. Ils sont également à vos services, M. Croiset. Mm-hmm. Service de la commune. Voilà.
Et l'enveloppe par élu, elle est au moins
5 000 divisé par 33.
D'accord. Voilà, c'est pas énorme, effectivement. Mm-hmm. La formation.
Mais c'est pas une règle, on n'a pas donné de limite individuelle.
Non.
C'est la Chambre régionale des comptes qui dit que si on avait une explosion, il faudrait des budgets, il faudrait sursoir, tant qu'on n'a pas fait un règlement.
Par exemple. C'est pour ça qu'on ne va pas lui refuser.
150 euros par
personne. Oui, c'est pas énorme, c'est vrai.
Une formation pour les bénévoles. Vous savez, les formations, c'est des fonds par tranche. Pour les 20 000, elles sont plus chères. En 150, on est...
Bon, l'an prochain, on mettra un peu plus d'argent en formation. On met plus de 100 000 euros pour les personnels, pour l'ensemble des personnels. Donc c'est quand même une somme conséquente. Les élus méritent bien aussi la possibilité d'avoir une formation et de les suivre. On passe donc aux décisions municipales. Donc, en page... Et le tout début, page 6, on n'a pas d'informatique, on n'a rien, on est planté, on voit, il n'y a pas de cinéma, non, ah bon, ah, il n'y a pas de document, ah, c'est dommage. Donc, nous avons les contrats et spectacles pour les interventions culturelles, voilà, pour les arènes, place à Libération, la masse des pauvres. Nous avons ensuite des décisions de laisser en justice. Alors là, c'est l'occupation du domaine public. Et ensuite, des problèmes d'urbanisme.
Pardon, monsieur le maire.
Oui,
c'est moi.
Monsieur Trapoli.
Oui, en ce qui concerne les décisions de laisser en justice, oui. C'est la mairie qui est pour déterminer le construire ou c'est le maire ?
C'est l'inverse. Ça peut dépendre. C'est-à-dire, là, il y a, par exemple, parfois on attaque, parfois on défend, c'est sûr. Vous parlez duquel ?
Monsieur, la plage Giner.
Giner. C'est monsieur Giner qui attaque un refus de la commune. Sur le refus de délivrance de permis. Lui a un droit d'avocat et puis on va voir ce qu'on fait.
D'accord, non, non, voilà. je voulais simplement le savoir. Parce que...
Il a été refusé, il fait un recours contre la
refus. Ah, d'accord, ok. Ok.
Parce que bon, on en revient aux antennes de télévision, de téléphone mobile. Donc c'est à 20 mètres de maison que vous l'avez accordé.
C'est un peu particulier. Quoi.
Monsieur, voilà. Je vous ai dit l'autre jour.
Encore une fois, je vous ai dit l'autre jour, quand on n'est pas propriétaire du terrain, on ne peut pas empêcher l'implantation de l'antenne si elle est exactement dans les règles prévues par le PLU et par le code. Mais oui, je ne peux pas refuser.
Vous ne pouvez pas refuser, mais en dernier lieu, c'est vous qui décidez.
Non.
Mais si.
Mais non.
Dans tous les cas,
c'est un contrat qui est passé entre l'opérateur téléphonique et le propriétaire de la parcelle. C'est comme ça.
Dans ce cas de figure particulier qui engage la sécurité physique des gens.
Mais on contrôle si la sécurité est engagée. C'est-à-dire qu'on demande pour toutes les implantations d'antennes, on demande un contrôle une fois que l'antenne est installée, un contrôle pour voir si l'émission correspond aux normes qui sont tolérées avant et après. On fait un contrôle avant, un contrôle après. Si les normes correspondent à ce qui est autorisé, on ne peut pas l'empêcher.
On le verra également tout à l'heure.
Malheureusement, c'est comme ça. Hein.
Pour le compteur Linky.
Ne croyez pas que je suis un partisan forcené des antennes. C'est comme ça.
C'est la proximité des habitations qui m'avait
choqué. Eh oui, je suis d'accord avec vous.
Et le principe de précaution.
Je suis d'accord avec vous, mais le principe de précaution, nous, on le fait. On a un contrôle qui est à la disposition, hein, il est dans le dossier. Hein, voilà. On demande à un organisme privé, hein, pas un organisme de l'ordonnateur, on demande un contrôle par un organisme privé, indépendant. Voilà, merci.
Moi aussi j'ai deux questions, monsieur Bourguet. Carnot, là il y a deux sujets bon, qui sont un peu les mêmes. Donc au 77, il y a l'attribution de l'exploitation d'un camion à la place Suffren.
Oui.
Et puis il y a le Miam à Carnon Ouest qui, lui, il y a un recours. Parce que... Alors je voudrais comprendre deux choses, parce que là, on a affaire à deux commerçants qui sont sur notre commune depuis 25 ans, 26 ans ou plus. On leur a enlevé presque en début de saison leur concession. Donc ils étaient au courant, mais eux ne le disent pas comme ça. Ils disent qu'ils étaient venus vous voir avant, qu'on leur avait dit c'est juste une formalité. Finalement, ils ont perdu la concession. Alors, qui c'est qui attribue ces concessions? D'abord, est-ce qu'il y a une commission? Parce que j'ai jamais entendu parler de cette commission. Et ensuite, pourquoi ces deux commerçants, qui sont des vieux commerçants de Carnon, pourquoi ils ont perdu comme ça, du jour au lendemain, leur concession?
Bien. Alors, il y avait, M. Bourguet, avant 2017, un état de fait qui permettait à la commune de reconduire tacitement, dès lors que la commune était satisfaite des prestations des vendeurs ambulants, il y avait la possibilité pour la commune de reconduire le Miam ou le sur le parking du Suffren à Carnot, ce que nous avons fait pendant toutes ces années. Une loi d'avril 2017 est venue dire que désormais l'attribution de l'occupation du domaine public devait se faire sous forme d'appel à concurrence, de mise en concurrence. En conséquence, la régie a monté un marché avec une évaluation de l'offre, c'est-à-dire que vous avez le prix à une certaine valeur, la valeur technique à une autre. Donc, on a eu malheureusement, oui, pour ces personnes, plus de candidats que de places. Nous avons eu 7 candidats pour 5 attributions, ce qui fait que fatalement, 2 candidats n'ont pas eu d'attribution. Parmi ces deux candidats, il y avait deux anciens exploitants qui ont perdu la jouissance de cette location pour la durée d'un an, puisque c'est au moins un an. Un an reconductible. Enfin, si les personnes qui sont choisies remplissent bien leur mission, elles perdront pour 3 ans. Si elles ne remplissent pas bien, à notre appréciation de leur mission, on peut remettre le marché en question au bout de l'heure. Donc, Madame Costanzo, qui exploitait le Suffren à côté du Suffren à Carlon, et M. Godefroy au parking passager à Carnon-Ouest ont perdu, si vous voulez, le marché. Ils n'ont pas été classés en tête. Pardon ? Ils n'ont pas été les mieux disants de cette consultation.
Ça s'est dessiné principalement sur le plan financier, puisque c'est des toutes petites sommes. Je ne pense pas qu'il y ait des écarts financiers énormes. C'est 300 euros par an ou 400 euros par an, des différences.
Donc, la valeur financière était à 30%, toi-t-il, ou 30% ou 40%? 30%.
La pondération pour le prix était autour de 30%.
Et la valeur technique, 70%. Et c'est vrai que les offres des personnes qui ont eu le marché étaient techniquement, malheureusement pour ces personnes évincées, meilleures, puisque au regard des pièces produites, elles étaient meilleures que celles qui étaient existantes. Nous avons reçu les deux concessionnaires évincés. On les a reçus.
Et on n'a donné aucune valeur donc dans l'attribution à l'ancienneté. Quoi.
Ça, mais non,
ça ne rentrait pas en ligne de compte.
Non. Vous croyez bien qu'on aurait bien fait l'économie d'un conflit entre une personne qui gagnait sa vie, qui est belgorienne, et une personne qui vient d'ailleurs, qui a mis également de gagner sa vie. Le problème, c'est le problème de la mise en concurrence. C'est la mise en concurrence qui fait qu'on ne prend que le mieux disant. Voilà. Et en conséquence, en tant que maire, je suis tenu à mettre en concurrence ces personnes. Et sur les 7, quand il y a que 5 places, il y en a 2 qui perdent. Alors, il y en a 3 qui ont été reconduits, mais 2 qui ont été reconduits sur les 5. Et un troisième qui est venu d'ailleurs. D'ailleurs, M. Godefroy n'est pas encore reparti. Et donc, il y a un contentieux avec lui. Même si M. Godefroy comprend toutes les raisons de la Terre qui ont fait qu'il a été évincé, mais il dit, pour moi, ça ne me convient pas parce que je pensais que je resterais. En plus, on leur a laissé la possibilité... La réunion s'est tenue le 4 avril, pas dit ? Le 4 avril, donc même le 4 mars.
Ils ont été informés quand
ils ont été
informés. Des résultats.
Début mars, ils ont été informés
sur une commission.
Sur une consultation et que l'occupation perdurerait jusqu'au 30 juin, c'est ça.
Ouais, on leur a permis, puisqu'on était effectivement, je dirais, pratiquement certain que tout allait bien se passer, et qu'on a depuis 30 ans, donc le cahier des charges correspondait à ce que ces gens-là produisaient, donc tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf que, comme dans toute mise en concurrence, le risque zéro n'existe pas. Et c'est ce qui s'est passé. Effectivement, il y a une publicité qui a été vue par d'autres entrepreneurs qui ont sauté sur l'occasion et qui se sont proposés sur ces concessions. Et ils ont remporté le marché dans la mesure où l'offre technique, qui était à hauteur de 70%, était une offre qui était réellement bien meilleure que, malheureusement, celle de M. Godefroy et celle de Mme Cossonneau.
Et après, au niveau de la date, parce que c'était quand même un peu tard, parce que je pense qu'ils ont eu des réponses assez tard, parce que Mme Constanzo, par exemple, elle avait déjà acheté son stock.
Oui, mais ils étaient informés au mois de mars qu'ils n'étaient pas forcément détenteurs pour l'année à venir de la concession. J'essaie de dire les choses simplement parce que, personnellement, j'ai beaucoup de considération pour Mme Constanzo, que nous connaissons depuis très longtemps, et pour M. Godefroy. Ce n'est pas des personnes envers lesquelles nous n'avons pas essayé d'accompagner le commerce, puisqu'on les a reconnus d'année en année. C'est une mise en concurrence, j'allais dire malheureuse pour eux. M. Godefroy, je ne vais pas vous faire une description de M. Godefroy comme quelqu'un qui ne faisait pas bien son métier. Simplement, son offre a été jugée moins bonne, l'autre offre était mieux disante. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus, monsieur. Et je regrette le problème humain que ça suscite. Hein. Parce que j'ai reçu M. Godefroy, mairie de Carnon, à mon initiative.
Aussi une pétition même du quartier.
Oui, mais c'est comme qu'il y a une élection, on peut avoir une pétition des gens qui regrettent que leur candidat n'ait pas été élu. Mais si le principe de démocratie et d'équité plaide pour le résultat qui a été rendu, malheureusement, ça suscite un problème humain pour la personne qui était vincée, je le regrette. Voilà.
Mais donc, je pense, parce que quand même on avait déjà eu ce débat la dernière fois avec les paillotes, quand il y a eu les problèmes avec les paillotes, c'est que les dates, quand même, c'est tard. d'avoir des résultats d'avis d'appel d'offres au mois d'avril ou au mois de mai, je pense que c'est vraiment tard. Il faudrait arriver à trouver des solutions pour que ce soit beaucoup plus tôt dans l'année.
Je terminerai, Monsieur Bourguet, en vous disant que l'année dernière, quand la loi a été promulguée, nous aurions pu, si nous avions été zélés, l'appliquer pour l'année 2017, ce qui fait que, malheureusement pour certaines personnes, dès 2017, leur activité commerciale se serait arrêtée. On peut voir les choses de notre côté, en disant que la commune a sursis pour prendre le temps justement de faire les choses, je vais dire, correctement, décemment, que ces personnes ont été averties que, enfin, nous, on n'avait aucun motif de leur dire qu'ils l'auraient et qu'ils ne l'auraient pas. Ils ont bénéficié d'un sursis, en quelque sorte. Je ne dis pas ça pour qu'ils nous remercient, mais on a quand même été plutôt bienveillants vis-à-vis de ceux qui détenaient la concession que bienveillants vis-à-vis de ceux qui sollicitaient une concession, comme les deux nouveaux attributaires. Je ne peux pas vous dire plus. Voilà.
Merci.
Donc vous avez ensuite les procédures adaptées. On en a une particulièrement importante sur l'école Monet. Donc on a de gros investissements qui confirment la volonté de maintenir le patrimoine scolaire en bon état. Voilà. Et puis, donc, sur la base nautique, on a deux avenants. Voilà. Donc on va passer au point numéro 1, relatif à l'élection des délégués à la commission consultative des services publics locaux. Alors, d'abord, je rappelle que cette commission, elle s'appelait Participation des habitants de la vie locale, et qu'elle a comme objectif de placer l'usager au cœur des missions des services publics locaux, de contribuer à la lisibilité de l'action publique, de moderniser la qualité des services publics et d'élaborer une réflexion sur les sujets concernés. Cette commission examine notamment le rapport annuel établi par chaque délégataire et se prononce sur tout projet de délégation de services publics avant le conseil municipal. Donc, elle comprend des membres de l'Assemblée délibérante et des représentants d'associations locales qui sont nommés par l'Assemblée délibérante. Ainsi, nous avions dans cette commission, à la suite de la délibération du 14 avril 2014, Madame Florence Bach, qui était présidente de l'Association des commerçants de Mouguio, et M. Michel Rostand, président de l'Association des commerçants de Mouguio. Et cinq membres du conseil municipal désignés par délibération, qui étaient M. Cassard, M. Cravert, M. Albert, Mme Laurente et vous, M. Bourguet. Alors, compte tenu des derniers changements intervenus dans la composition de cette commission, il est proposé au conseil municipal de proposer une nouvelle désignation de ses représentants au sein de la commission communale consultative des services publics locaux et de maintenir leur nombre à 5. Alors, moi, je vous propose de désigner au niveau des associations une Melgorienne et un Carmonet, Madame Itier, qui est commerçante à Mouguio, et M. Rostand, qui est commerçant à Carnon. En revanche, je vous propose aussi de redésigner les 5 candidats, les 5 titulaires. Il y avait M. Cassard, M. Cravert, M. Albert, vous, M. Bourguet, et il convient de remplacer Mme Laurente, qui n'est plus partie du conseil municipal. Donc je vais vous demander s'il y a des candidats parmi l'Assemblée délibérante pour rentrer dans le collège des 5 personnes élues.
On est d'accord, on peut la reprendre.
Oui, mais il faut
Vous pouvez faire une proposition.
Faites une proposition en remplaçant Mme Laurent.
Si vous êtes d'accord, je propose Mme Favier qui remplace Mme Laurent, si lui est place, et on garde la commission comme elle, si tout le monde est d'accord. Ça vous convient, Dominique?
Oui, moi.
C'est M. Bourguet, c'est vous qui siégez? Bon, je vais voter quand même. Donc je rappelle, titulaire, M. Cassard, M. Cravert, M. Albert, Mme Favier, M. Bourguet et Madame Ithier et Monsieur Rossard comme délégués, comme pour le monde du commerce. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà la bonne chance de le faire. Ensuite, même exercice pour la mise à jour de la désignation d'un représentant à la commission locale d'évaluation des transferts de charges, la CLET. Cette commission, vous le savez, a pour but, l'appartenance de cette commission est celle de vérifier les flux financiers en fonction des délégations qui sont confiées à la communauté d'agglomération et d'en imputer les charges à la commune ou au contraire de lui retourner dès lors que la commune reprend une compétence qu'elle avait déléguée. C'est-à-dire une compétence optionnelle. Voilà. Donc, on avait Madame Laurence qui faisait partie de cette commission. Elle n'en fait plus partie, ne faisant plus partie du conseil municipal. Je vous propose de désigner Madame Favier à la commission, à moins qu'il y ait d'autres candidats pour cette élection.
Vous êtes
le grand seigneur. C'est bien. Bon, s'il n'y a pas de candidat, je vous propose de désigner Madame Favier. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Madame Favier, vous êtes la nouvelle ambassadrice. Ensuite, schéma directeur de Clermont, troisième point, demande de subvention à la région. Donc, vous le savez, nous travaillons depuis pas mal de temps à l'élaboration d'un schéma directeur de développement et d'aménagement, dont les buts sont de concilier le développement touristique en même temps que la préservation du patrimoine culturel et la valorisation du cadre de vie. L'idée est de développer un tourisme des quatre saisons en lien avec les milieux humides et d'adapter les aménagements urbains et architecturaux à un contexte écologique que nous savons tous particulièrement sensible. Il a été détaillé une enveloppe financière prévisionnelle de 6 437 280 euros. Et aujourd'hui, ce qui vous est proposé, c'est par rapport aux choix qui ont été opérés de privilégier les deux blocs dans les premiers objectifs dont je rappelle les finalités. Le bloc C, qui est la création d'un parc de stationnement à l'entrée de ville, avec un réaménagement de la première séquence de la migration Cibran, un aménagement des circulations pour les monts de Doubs, une reconfiguration de l'accès à la mer sur Carnon-Est, c'est-à-dire ça concerne les lieux géographiques de la place Cassan et le front de plage, de même que la requalification des espaces publics existants en cœur de station. Je précise que ces objectifs découlent d'une étude qui a été faite par le cabinet Horizon Conseil et l'étude de traverse pour ce qui est du stationnement et de la circulation. Et ensuite, le bloc D, qui est relatif à l'aménagement de la promenade autour du pont et la liaison rive droite-rive gauche avec les études préalables qui nous mèneront jusqu'à l'avant-projet. Je vous donne également comme information que la commune a confié à la société publique locale d'aménagement leur aménagement en mandat d'études de travaux pour la mise en œuvre de ce programme. Voilà, donc rien de nouveau, c'est Mogué.
C'est une question à la marge, puisqu'on parle de la liaison Carnon-Est-Carnon-Ouest. Oui. Je voulais revenir un peu sur l'histoire du bac, quand même, parce que je trouve quand même que c'est dommage qu'il n'y ait pas le bac cette année à Carnon. Mais je voulais savoir vraiment le pourquoi et le comment.
Bon, écoutez, en deux mots, rien ne nous aurait poussé à supprimer le bac, si ce n'est que cette année, on a pas un véhicule, mais enfin, on a un bâtiment, c'est comme ça que ça s'appelle, un navire qui est hors d'état d'usage, qui est en fin de vie, que nous sommes en train de mener une réflexion sur les mobilités, que nous sommes en train d'envisager également un franchissement Carnon-Est-Carnon-Ouest avec un pont, avec une passerelle, pardon, merci Bernard, et que cette année est une année de transition, effectivement, où l'accent est mis sur le développement durable, plutôt que, si vous voulez, un moyen de locomotion, un développement durable et à l'année pour les Carbonais, sur 12 mois, plutôt que, si vous voulez, une facilité, je le conçois, puisqu'elle avait son usage, suscitée par l'arrivée de certains touristes pour une période simplement de 2 mois. À la marge, je vous dirais que nous avons quand même consulté une entreprise privée pour essayer de voir le temps que nous trouvions une solution définitive. Laquelle entreprise privée nous a proposé un devis de 110 000 euros, qui correspond à plus de 2 fois le coût moyen annuel du fonctionnement du bac. j'ai jugé que ça n'était pas une somme raisonnable pour simplement faire quelques mètres, fût-il au milieu de l'eau. Voilà. Voilà. Donc, on ne va pas laisser les choses en l'état. J'espère que nous arriverons d'ici l'an prochain à trouver une solution de franchissement plus pérenne. Et c'est vrai que certains Carnonais le regrettent. Nous le regretterons aussi, parce qu'on aurait bien aimé le conserver. Mais on n'est pas dans le développement durable, et surtout pas dans l'utilisation d'un moteur à qui l'on demande tous les efforts pour avancer, et autant d'efforts deux minutes plus tard pour reculer. C'est-à-dire que systématiquement, on les détruit. Voilà. Voilà, mais on sait que c'est comme ça. On a essayé au salon, il y a plusieurs années, on avait au salon nautique, on avait des bateaux qui marchaient à l'énergie solaire, mais malheureusement, le courant qui est ne permet pas la mise en place de ces bateaux-là. Mais peut-être l'innovation nous permettra telle, dans quelques temps, en aménageant les ports et les quais, de dire qu'il faudra peut-être un bateau qui fera du cabotage, mais qui aura une fonctionnalité différente d'un franchissement de 29 mètres, qui est enfin, un peu plus que ça, parce que 29 mètres, c'est l'écartement du canal pour une passerelle. Enfin, c'est vrai que ça n'est pas une décision pour punir qui que ce soit. C'est vrai qu'on le regrette aussi. Voilà. Et que si on a vu l'entreprise qui nous le propose pour cette année, on aurait, à quelque chose de près, payé 50 ou 60 000 euros, on l'aurait fait. Mais 110 000 euros simplement pour franchir quelques mètres, à dire qu'on ne le faisait pas payer. Parce que là aussi, c'est bien pratique quand c'est payable et payé par le contribuable. Voilà, donc je vous propose quand même de revenir, M. Bourguet, sur les objectifs de ces demandes de subvention auprès de la région qui, comme vous le savez, va consacrer 1 milliard d'euros à, disons, l'accompagnement du plan littoral 21 qui consiste à requalifier les stations, notamment les stations littorales, dont celle qui avait été initiée par la mission Racine, et qui est celle de Carnon. Monsieur Pradet ?
Sûr, je vois apparaître avec satisfaction la liaison rive droite, rive gauche. Je trouve que c'est mieux que faire du goudron de partout.
Merci.
Donc c'est ce que je préfère dans votre proposition. Où est-ce qu'on vous en êtes dans votre réflexion? C'est quelque chose qui avance bien? On a des premiers contacts d'études? Comment ça pourrait, si on trouve, en gros, si on trouve une subvention, on le fait?
Alors, effectivement, alors, nous allons désigner au mois de septembre une maîtrise d'ouvrage sur ces engagements que l'on prend, bloc C, bloc D, pour coordonner, si vous voulez, l'ensemble de ce qui sera fait. Aujourd'hui, nous n'avons pas dans les tiroirs un modèle que l'on pourrait reproduire à Carnon. Je vous mentirais. Je préfère vous dire qu'on va demander à cette maîtrise d'œuvre de nous proposer ce système de franchissement, lequel fera l'objet d'une instruction de la région. Aujourd'hui, on n'a pas dit à la région, donnez-nous un petit peu d'argent, ou beaucoup d'argent, et nous verrons ce que nous faisons avec cela. C'est pas comme, vous le savez, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'ils vont nous préparer un avant-projet, un avant-projet sommaire, où ils vont nous dire, voilà, vous avez ça, vous avez ça, voilà ce que ça coûte. On fera comme on a fait pour la base nautique, on prendra le temps de la réflexion pour quelque chose qui ait du sens. Et il ne vous a pas échappé que c'était dans les...
Le sens de ma question, c'est au sein de la majorité municipale, c'est un projet qui remonte le peloton ou... qui a pu échapper.
Vous vous intéressez à la majorité municipale, M. Prenet?
Eh oui, parce que c'est...
D'habitude, ou tout d'un coup, comme ça?
Non, mais contrairement à ce qui se dit, c'est elle qui gouverne. Donc,
c'est elle, pardon?
C'est elle qui gouverne la ville, donc il faut prendre la température.
Pourquoi, contrairement à ce qui se dit?
Non, mais des fois, on ne sait pas, quand on est à Carnon, qui est-ce qui gouverne et qui est-ce qui n'est pas réparé le bac? Alors, on ne sait plus qui...
Ah, d'accord. D'accord.
Non, mais je veux ça, je voudrais savoir moi si c'est un projet qui...
Bien entendu.
Qui prend forme.
C'est un projet qui est important, qui est techniquement complexe, j'espère qu'il sera moins compliqué que complexe. Voilà.
Okay.
Bon, vous êtes d'accord pour demander les subventions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Même type de démarche concernant la capitainerie du port de Carnon, qui est en lien avec le schéma directeur et le plan littoral 21. Vous le savez, la capitainerie de Carnon présente des désordres structurels relativement importants, assorti d'une nécessité d'une mise en conformité par rapport à l'accessibilité. C'est ainsi que cet ouvrage qui date de 1970 va être... nous proposons sa requalification avec un diagnostic qui dit qu'il faut la déconstruire et la reconstruire. Et il s'insère, outre les fonctionnalités de la capitainerie concernant le fonctionnement du plan d'eau, il est envisagé également de l'intégrer dans la philosophie des déplacements des cheminements d'eau et des aménagements que nous proposons aux Carnonnais et aux touristes pour justement assurer une promenade continue et sécurisée, beaucoup plus agréable, beaucoup plus sécurisée qu'elle ne l'est aujourd'hui, où la traversée du passage relative à la capitainerie, les pompes à essence adjointes, adjacentes, sont tout sauf un parcours agréable qui vraiment n'est pas à la hauteur de la réfection du quai des pêcheurs qui a été fait il y a plusieurs années. Donc là, nous souhaitons qu'il y ait un continuum, mais la demande, d'ailleurs, nous avons relancé le concours en partie par rapport à ces insuffisances relevées dans la première mouture. Et donc, nous souhaitons qu'il y ait des fonctionnalités qui intègrent autre chose que simplement une vigie qui surveille les points d'eau. Voilà. Donc, pour ce faire, nous allons demander de l'argent à la région, si vous êtes d'accord.
Oui ? Au niveau des concours, là, on n'est pas lié, les concours ne sont pas passés. Si on voulait changer de projet, on pourrait.
Alors, nous avons reçu 37 actes de candidature qui vont être jugés au mois de septembre, analysés pour en retenir 4. Et ces 4 nous présenteront un projet. Oui.
Mais il est encore temps de sursoir.
Pourquoi vous le sursoir ?
Est-ce que vous êtes sûr que c'est le meilleur endroit de la
pour la capitainerie ?
Ouais.
Vous voulez pas la faire
à la passerelle,
à la passerelle.
Eh oui. C'est l'heure d'une pizza, là, si vous n'en avez pas.
Voilà. Bon, écoutez, aujourd'hui...
Ah, mais à la passerelle, moi, je pense que c'est...
Aujourd'hui, le dossier, c'est une suggestion. Cher. On y a pensé aussi. Si vous voulez, l'acte de candidature de la réfection de la capitainerie en ces lieux et places ne relève pas d'une inspiration au doigt mouillé un matin. On a tout pesé, effectivement, à supposer que la passerelle Mertens est un jour une autre destination, puisqu'elle est en délégation des services publics, elle est toujours à la disposition de la commune. Il a été jugé que le plan d'eau était mieux surveillé, si vous voulez, compte tenu également de la présence des réserves de carburant qui étaient là, et du fait que nous voulions agir sur le côté urbanistique de cette... pas simplement le côté visuel, mais le côté urbanistique de cet espace. Donc,
parce que les ascenseurs sont déjà faits, la passerelle, les usagers, a priori, ils disent que cette idée vient de tout.
Et c'est aujourd'hui que vous le dites, monsieur Prédé ?
Et on progresse, c'était bon un peu. Si je ne me défie pas, je l'aurais fait.
C'est une progression dans la matière de gastéropode.
Ben, elle sera bien que c'est. Comparons ce que j'ai fait dans le Mandès, ce que vous avez fait vous, on dirait qu'on n'a pas été plus vite que là.
Non, je veux dire, je peux admettre que vous ayez une autre idée, mais elle a été étudiante entre différentes approches.
Mais elle est voilà. Usagée, elle est très bêtement chère. Elle est déjà aménagée, vous
savez. Et l'autre, et la capitainerie, qu'est-ce qu'on en fait ?
Derrière.
Oui, c'est un bâtiment qui était bâtiment qui est impropre aujourd'hui, qui a une durée de vie qui est qui a besoin de soins palliatifs.
Oui, il y a peut-être un sujet de vie associative pour les plus anciens.
Oui. Ah, on a d'autres idées, mais
ça, il y a encore autant.
Écoutez, bon, pour le moment, nous analysons les offres.
C'est une maison de retraite.
Point numéro. Alors. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. 2. Je vous remercie. Ensuite, protocole d'accord, point numéro 5. Protocole d'accord en vue de la réalisation d'un projet d'habitat participatif. Alors, je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Donc, la volonté de la commune, en tout cas du groupe que je préside, est de laisser la chance à des personnes qui pratique le vivre ensemble, de pouvoir s'entraider, de favoriser le lien intergénérationnel, et quelle meilleure idée que celle de participer à la conception d'un logement et de se rassembler autour d'espaces mutualisés. Donc, symboliquement, cette volonté de qualité de vie, eh bien, nous la déclinons dans un projet novateur, qui est celui de ces 14 appartements environ qui seront adjacents à 11 maisons individuelles, dont 4 relèveront du dispositif prêt social location accession, PSLA. Donc, il y aura des espaces communs, des espaces verts, une salle commune, un jardin potager qui pourront être partagés entre l'ensemble des habitants participatifs ou entre les maisons individuelles. Donc, ce que je disais, c'est que ces fondements ont été partagés lors d'une signature la semaine dernière avec les représentants des colons, FDI Habitat, qui est le constructeur, leur aménagement, qui est le commercialisateur, pour le compte de la commune de la mairie de Bouillot-Carnon, c'est nous. Voilà. Donc, je vous demande, je vous demande de m'autoriser à signer cette convention. C'est-à-dire que nous avons l'autre jour évoqué symboliquement la volonté de signer cette convention, mais la légalité, la légitimité de l'acte relève de l'Assemblée délibérante qui est la nôtre ce soir. Donc ce que je vous demande, c'est d'approuver ce principe d'habitat participatif.
Oui.
Monsieur Bourguet.
Alors, il y a plusieurs choses. Bon, heureusement, vous venez de conclure en disant qu'il fallait que ça passe par le conseil municipal, parce qu'effectivement, j'ai lu un article dans le Midi Libre qui disait que la convention avait été signée mardi dernier. Alors, peut-être que le journaliste a un peu exagéré. Donc, vous venez de rectifier. Donc, vous venez de rectifier, donc tant mieux.
Voilà.
C'est très bien. Alors, dans cet article du Midi Libre, bon, l'article du Midi Libre, il commence par les 400 000 euros de pénalité que la commune a, comme si cette fonds de Mouguio pouvait avoir un lien avec cette pénalité. Donc, je rappelle, comme je le rappelle à chaque fois, qu'avec les 27% de logements que vous allez faire, on ne réduira en rien le taux de logement social sur la commune. Et même quand les 740 logements seront terminés, on aura réduit d'un point ou un point et demi la carence en logement social, donc ça ne changera rien du tout à la pénalité, même quand toute la fonte sera finie. Ça, ce sont des mathématiques. Hein. Donc, je pense qu'il faut arrêter d'envoyer cet argument-là. Ensuite, on parle de 3 000 euros le mètre carré pour les accessions aidées, 3 700 euros le mètre carré pour le reste. Là, on n'est plus tout à fait dans le besoin de loger les jeunes enfants de Mouguio. Il faut 1300 ou 1400 euros par mois pour s'acheter ces logements. Ensuite, concernant l'habitat participatif, évidemment, l'habitat participatif, sur le principe, c'est quelque chose que je pourrais défendre. Mais là, je trouve qu'on va un peu vite. On va un peu vite parce que pourquoi ? C'est le premier contrat qu'on va signer avec le premier promoteur, c'est ce projet de Mme Gall qui se met en scène dans le Midi Libre en disant « Je vais être la première à habiter le fond de Mouguio ». Déjà, Mme Gall ne fait pas partie des gens qui ont besoin d'être logés à Mouguio, parce qu'elle est déjà très bien logée à Mouguio, qu'elle a d'autres endroits pour se loger aussi. Donc, elle a un projet où il lui faut 11 candidats pour qu'il soit viable. Depuis le temps qu'elle se bat, qu'elle est sur tous les salons, qu'elle fait des conférences, elle n'a pas encore trouvé les 11 candidats. Donc je pense que le projet n'est pas du tout abouti, donc je ne comprends pas, je trouve qu'on va beaucoup trop vite. Alors moi, ce que je constate, quand même, je vais le dire, c'est que depuis un certain temps, vous cherchez ce que j'appelle une caution écolo à votre projet à fond de Mouguio. Alors moi, je vous le dis tout net, moi, je ne vous apporterai jamais cette caution et les écologistes de Mouguio non plus. La fond de Mouguio, ça restera pour nous un projet de béton et de bitume sur 20 hectares de terre agricole. La fonte de Mouguio ne résoudra en rien la pénalité pour carence de logement social et la fonte de Mouguio ne logera qu'une toute petite poignée d'enfants de Mouguio. Voilà, en conclusion.
Bien, écoutez, monsieur Bourguet, je ne vais pas faire le commentaire du commentaire que vous avez fait sur le journaliste qui a rédigé l'article, ni sur vos appréciations sur une dame qui est présidente d'une association qui est partenaire du sujet. Voilà. Alors après, les considérations qui sont les vôtres, je vous les laisse volontiers. Je rappelle simplement que c'est un projet qui va permettre à 170 familles qui peuvent prétendre au logement locatif aidé de trouver une solution. Que les prix qui sont pratiqués sont des prix qui sont maîtrisés comme on s'était engagé, c'est-à-dire 20 à 25% inférieurs au prix du marché. Le marché, ce n'est pas moi qui le fixe.
Non, les derniers appartements qui sont vendus à Mobio par un promoteur privé, sans l'aide de la collectivité, se sont vendus à 3 000 euros.
Monsieur Bourguet.
Et là, on passe à 3 700 et on dit qu'on fait encore une ristourne de 25% aux promoteurs pour qu'ils arrivent à passer à 3 700.
Monsieur Bourguet, vous êtes...
Les derniers logements se sont vendus à 3 000 euros, monsieur Bourrel, à Mobio.
Bon, monsieur Bourguet, vous avez votre vérité, c'est très bien, votre logique. Je n'avais pas perdu du temps, puisque vous me traitez de menteur.
Non, je ne traite pas de menteur, je fais un constat, c'est tout.
Voilà, d'accord. Mais écoutez, moi je vous donne un rendez-vous en 2019-2020 et plus tard, puisque c'est une opération qui se fera sur une dizaine d'années et qui, j'espère, sera bien aboutie avec des personnes de bonne volonté. Après, chacun apprécie les personnes. Moi, en tout cas, je vous demande d'apprécier le projet par un vote qui dira... Si le fait d'associer des acteurs locaux à la construction d'un projet intergénérationnel et qui peut avoir du sens, vous convient ou pas. Monsieur Pradet.
Je voudrais d'abord vous poser une question. Sur le portage du foncier, du terrain.
Oui.
Ils nous l'achètent, on le leur donne, comment ça se passe?
Non, le terrain va être vendu à des particuliers pour les lots à bâtir, il va être vendu aux investisseurs avec des prix qui sont imposés. C'est-à-dire que nous savons que la personne qui va, mettons, c'est M. Martin, M. Durand, qui est promoteur, eh bien le prix de sortie ne sera pas supérieur au prix que nous aurons décidé. Ce sont des prix encadrés.
Voilà. Alors la question précise, c'est à combien on leur vend le terrain? À l'opération.
Le prix du terrain, il est pour mètre carré. Allô, on va dire
ouais. Vous me dites ce que vous voulez, soit
RDI, soit en accession, si ce n'est pas le même tarif. Et quelle est votre politique tarifaire? J'ai une grosse inquiétude sur votre politique tarifaire. Sur l'accessibilité. Parce que je vous dis ma sensibilité, je trouve que entre 3 et 4 000 euros pour mètre carré habitable, c'est plus tendu que le reste du marché.
Je ne peux pas vous dire, moi je n'ai pas le catalogue des prix, ce que je peux vous dire, on est à...
Oui, mais si vous voulez, je pense que l'équilibre de l'opération et donc le prix vendu en sortie,
oui,
c'est une question politique extrêmement importante.
Oui, mais nous l'avons fait le plus bas possible pour que les gens puissent sortir. Alors nous avons un libre, nous sommes à 3 700 et un logement abordable à 3 000.
Non, mais ça, vous me parlez de la surface habitable.
Oui.
Oui. Je vous parle, moi,
de la charge foncière.
Oui.
Je ne vais pas peut-être, je ne vais pas vous le dire.
Parce que si vous voulez.
Ce qui compte, c'est ce que payeront les gens, quand même, au final.
Non, c'est ça. Non, si vous voulez, monsieur le maire, on a eu que des débats de pouvoir et chacun essaye de faire au mieux qu'il peut. Vous me dites, vous savez, pour faire la part sociale, c'est dur pour les promoteurs. Oui. Parce qu'ils ne passent pas.
Je vous ai pas dit qu'ils ne passaient pas.
Non, mais les choses que j'ai entendues, ils ont du mal à équilibrer l'opération, si vous voulez.
Je ne connais jamais, ils ne se dépêchent pas tous. S'il y en avait autant de candidats, c'est que ça doit quand même
avoir un problème. Si vous étiez à ma place, la question, le corollaire de ça, c'est à combien on leur vend le terrain. Si nous-mêmes on leur vend trop cher, évidemment, il y a un pépin. Et la question que je pose, c'est est-ce qu'on a un tarif différencié quand on fait du logement social, donc un tarif qu'on subventionne et un tarif pour le privé. Donc ça, c'est la question que je... Il me semble que c'est le cœur de la question. Pouvoir délibérer là-dessus, je ne peux pas ça. Alors je vous dis, entre 3 700 et 4 000 plus cher.
Mais pour le logement abordable, c'est 3 000.
C'est quand même cher.
C'est 20% moins cher que le prix des marchés. 20 à 25% moins cher.
Non.
Bon, écoutez. Bon,
ça, non.
Après, si vous voulez, je vous donnerai des éléments. Nous sommes dans une intention, dans un équilibre d'opération qui fixe les prix de vente, les prix de sortie. Vous avez les références sur mes maisons, vous avez les références sur les châtaigniers. On est dans ces ordres de grandeur-là. Voilà. À peu près.
Voilà. Après, moi, j'ai des corollaires à vous poser. Quel type de protection donne quelle protection ont les futurs 11 acquéreurs par exemple, est-ce que s'ils ont un accident de vie, est-ce qu'on leur propose de les reloger? Je vous parle là de la charte de ce que font les SCOP. Les SCOP, elles font ce type d'opération. S'il y a un accident de vie, un divorce, un veuvage, elles relogent les gens, elles leur proposent soit de récupérer au prix d'achat, et de reloger l'aide sociale.
Ou à demander la convention de la FDI. Je vous la donne avec, si vous voulez.
Non, mais je veux demander quelle est la pratique, à quelle hauteur on protège. Si vous voulez, j'ai l'impression que le portage associatif est plein de bonne volonté,
oui,
mais il est moins protecteur peut-être que le portage SCOP, qui est un portage qui est référencé nationalement, et qui donc est solide et protecteur. C'est Marie-Noël Guillemin qui a travaillé dessus.
Vous pensez que FDI n'est pas dans une...
Non, je ne sais pas quel portage vous avez fait, parce que c'est une série de conventions, il y a une articulation entre vous-même, l'ASPLA,
oui,
une petite asso, c'est là que je crains qu'il y ait la petite faiblesse.
Et, non, mais Laura,
et FDI, donc c'est la question que je...
Les 11 logements participatifs, c'est 11 lots privés à chacun, propriétaire de son lot, c'est pas une copropriété.
Dans le monde des SCOP, si ça avait été monté, un SCOP, ils auraient une protection.
On a aussi...
Donc ça veut dire que c'est peut-être pas le meilleur véhicule possible pour protéger le conflit de ses habitants.
Non, mais c'est très louable de votre part de vous préoccuper du sort des personnes qui... Pour être honnête,
c'est une fortune.
Oui, mais non, mais...
C'est une maison individuelle.
Bien entendu.
Oui, justement.
Non, c'est de l'habitat participatif. Ce n'est pas des maisons individuelles. Les gens, ils ont une salle commune, il y a deux types de nuits. Alors, il y a deux unités, 11 pour certains, 14 pour les autres.
Si vous voulez, après, moi, monsieur le maire, je vous fais une dernière remarque pour rejoindre monsieur Roulet. Comme on n'a pas accès à... tarifaire. Donc c'est compliqué d'échanger avec
vous. Donc vous mettez...
Non, je ne veux rien.
Moi, je vous donne le prix de sortie, quand même. C'est pas n'importe quoi.
Je veux le prix. Si vous voulez, je ne suis pas là, je ne suis pas client, monsieur.
Ah bon.
Je suis là pour...
C'est pas sur la
vie. Vous ne m'entendrez pas. Donc, je vous demande, en bonne politique publique, si vous avez, par exemple, un tarif différencié du prix foncier pour le logement social et pour le logement privé.
Bien sûr.
Et je veux savoir à quelle hauteur. Voilà, c'est la discussion qu'on pose. Donc ça, c'est... Comme on n'a pas cette... On n'arrive pas pour l'instant à construire cet échange, on a un coup de... On a cette complexité-là. Donc, et je dois vous dire, par rapport, pour dire... je vais vous dire une anecdote. Ah. En début d'année, j'étais, à titre personnel, assez ennuyé que Mme Gall... m'interpelle sur la fonte de mon mur.
Décidément, vous avez
et j'ai trouvé que l'approche très polémique de Mme Gall à mon endroit, c'était au vœu de l'agglomération, pour le situer à Vival.
Qu'est-ce que j'y veux ? Allez-y.
Non, mais je vous dis que cette approche qui ressemblait plus à du commissariat politique qu'à une démarche humaniste et de volonté d'aider les gens. C'est quelque chose qui m'a vraiment, dérangé à titre personnel. Surtout que, par exemple, quand tu avais fait le marteau-plume, moi, j'ai voté avec vous en disant que c'était une super initiative, qu'il n'y a pas de problème. Là, ce côté, on a des amis communs, que ce soit Mme Gall, vous, moi, sur ces opérations-là. C'est des opérations qui moi, j'ai été sensibilisé à ce type d'approche-là. Mais j'ai l'impression que, et je revois M. Bourguet, elle a une approche... très polémique. Bon,
c'est la première fois qu'on parle autant de temps sur une personne qui n'est ni membre du conseil municipal.
Oui. Non, mais je vous dis, parce qu'elle est un agent
politique. Si, elle est présidente des Colors, et elle s'est mise en scène dans le Midi Libre.
C'est bien, mais écoutez.
Non, mais je vous le dis, parce que je l'ai ressenti comme un agent politique.
Ce que je note quand même, au final, c'est que.
Ça ressemble à un bras armé.
C'est que. Je m'attendais, M. Pradaille, vous qui avez la fibre sociale particulièrement développée, que vous auriez applaudi à de même pour une initiative qui, justement, pour la première fois, ce qui ne s'était jamais fait depuis trop longtemps, prévoit sur une durée de plus de 10 ans, autant de logements locatifs aidés pour les gens qui en sont exclus, à des prix qui sont maîtrisés et qui sont, je vous en donne à ma parole, sur mon honneur, 20 à 25% les plus inférieurs au prix du marché. Après le reste, vous chipotez sur certains chiffres.
C'est pas
qui ne sont pas des chiffres que j'ai avancés. Moi, je vous donne le prix de je vous donne le prix de sortie. Ça me paraît important.
Monsieur le maire, voilà. Côté, c'est au niveau de la conversation. Je vous demande le prix voilà. Que la puissance publique donne à cette opération sur le foncier. C'est pas chipoté, monsieur le maire. Je fais le métier de conseiller municipal, là. Non
c'est fait.
Le fait, non, mais s'il n'y a aucun de vos conseillers municipaux qui vous a posé la question, ils ont tous dû
vous poser la question à l'oreille. Je ne suis pas venu avec le catalogue des prix pour ce qui est logement social, PSLA, ainsi de suite, d'autant qu'ils n'ont même pas été révélés à la presse. Ils n'ont pas été précisés.
On est resté,
ils le sauront, bien entendu. Et sur le site de leur aménagement, j'ai tout à l'heure commencé à dire que l'attractivité de cette zone faisait qu'on avait 230 candidats pour une attribution de 30
euros. Oui.
Et que je tenais à dire les conditions dans lesquelles nous nous acheminions pour éviter justement. Je veux que ce soit un conseil municipal et que nul ne s'imagine qu'il y a des personnes qui sont déjà fléchées par rapport à des attributions, ça sera fait dans les termes
que je... Comment peut-on expliquer, que l'association Écolore, pour qui, non, qui en parle Bourguet, aujourd'hui, non, n'a pas Bourguet. Pu trouver 11 candidats.
Monsieur Bourguet, c'est pas mon problème de répondre à des questions, monsieur Bourguet.
Mais c'est de ça qu'on parle aujourd'hui.
Non, vous parlez de ce qui vous intéresse.
Non.
Moi, je vous parle
de aujourd'hui, on parle de la convention avec Écolore.
Non, mais écoutez, non.
On parle aujourd'hui, d'attribuer un terrain à Écolore qui n'est pas capable de trouver 11 candidats pour son projet.
Si voilà, vous, c'est ça si la réalité vous d'aujourd'hui. Pas l'idée,
mais c'est la réalité d'aujourd'hui.
Prenez vos responsabilités pour le vote. Moi, je mets la question au vote et je clôt la discussion qui a quand même été nourrie par certains échanges tout à fait démocratiques. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour les personnes qui ont apprécié, pour les jeunes qui en bénéficieront. Point numéro 6, expérimentation de l'extension de l'éclairage public à milieu de nuit. Bon, je rapporte le point en sachant que nous avons, c'est un travail transversal animé par l'urbanisme, M. Cassard, Sophie Crampagne, Jacques Cravert, Justine Michaud, notre économiste, pour justement travailler sur un terme qui nous est cher, l'environnement. Et justement, nous aurons le 13 octobre prochain l'événement national Jour de la Nuit, et nous travaillons depuis des semaines, comme on s'y était engagé, à une expérimentation sur une période de 6 mois relative à l'extinction de l'éclairage public en milieu de nuit aux heures de moindre fréquentation. Donc, je souhaite rendre cette décision publique, informer les citoyens. Ça s'est fait ailleurs, ça s'est fait à Prades-le-Lez, par exemple. Et je précise que, pendant l'expérimentation, l'éclairage sera maintenu sur les zones accidentogènes. Les giratoires, bien sûr, des entrées de ville, le port également sera bien sûr éclairé, et qu'il y aura des dispositifs d'accompagnement réfléchissant en clignotant pour signaler la présence d'obstacles. En gros, nous aurions en période hivernale une extension qui irait de 1h30 à 5h30, c'est-à-dire 4h, et l'été, en période estivale, du 1er juillet au 30 septembre, de 2h30 à 5h30 du matin. Voilà. Donc, ce lancement, je propose qu'il ait lieu le 13 octobre, comme je le disais tout à l'heure, événement national jour de la nuit, pour le coupler. L'idée également, en dehors d'une économie substantielle qui peut être réalisée, c'est également la préservation, comme cela a été fait en sensibilisation lors de la fête de la nature, du mois de juin dernier, mai-juin dernier, justement, de sensibiliser l'écosystème, préserver l'écosystème des sources lumineuses. Voilà. Voilà en gros le projet.
C'est une très bonne idée.
Voilà.
Au moins, il y a plus le bac, il n'y a plus la lumière, c'est bizarre, moi.
Voilà. Écoutez.
Bon, on le défendra. On défendra votre position.
Eh bien, comprenez, on progresse. Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Prolongation de l'échéance des amodiations de terre pleine de longue durée. Ça se passe à Carnon. Nous avons des terres pleines de longue durée qui sont amodiées. Ces amodiations se terminent au 31 décembre cette année. Nous avons la SCI Jean-Pierre. C'est celle qui exploite le petit édicule Uchip, en haut du stockage du parc à bateaux. Et nous avons Canon Plaisance, une société qui est à côté de la passerelle Mertens. Donc, on a bien entendu, on retrouve l'ordonnance du 19 avril 2017, celle que nous avons évoquée tout à l'heure pour les vendeurs de boissons et de sandwichs, qui oblige la commune à attribuer l'exploitation du domaine public, surtout quand il y a une visée d'exploitation économique, avec des mesures de publicité, afin d'en garantir l'impartialité et la transparence. Donc, nous avons constaté que nous avons confié une mission à leur aménagement pour justement travailler sur la rédaction des contrats, c'est-à-dire la durée des amodiations, la manière dont elles peuvent être reconfigurées, et que, comme cette étude est liée à la redéfinition du schéma directeur, nous n'avons pas voulu, avant que le schéma directeur n'ait posé certaines bases, anticiper avec un projet complètement déconnecté. C'est ainsi que nous vous proposons de sursoir, pour travailler plus intelligemment et plus en cohérence, de sursoir d'un an, de proroger les autorisations d'exploitation aux entreprises qui en sont aujourd'hui amodiataires, et qu'on le fasse donc jusqu'au 31 décembre 2019, de sorte que nous aurons en octobre le rendu de l'étude de leur aménagement. On fera ensuite la mise en œuvre des procédures de publicité, et il est question également de restitution des terrains par les occupants actuels, et d'affecter les lots aux nouveaux attributaires, qui pourraient être les mêmes anciens aussi, hein. C'est un jamais. Donc voilà, moi ce que je vous demande, c'est d'autoriser la prorogation des conventions d'occupation des terres pleines jusqu'au 31 décembre 2019. Voilà.
Monsieur le maire, je m'excuse. Ça se fera sous forme de marché, d'appel de marché, quand vous redistribuerez à l'issue de 2019. Ça sera quoi, sur appel d'offres ?
On va faire un appel d'offres ouvert, oui.
Ah, d'accord. Disons que ces terrains étant des domaines publics, on ne peut pas penser qu'il y aura des constructions dessus, du coup, si elles existent déjà.
Ce sont les constructions qui existent, seront à l'image de celles qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire dédiées à l'entretien et l'accastillage des bateaux,
d'accord.
Puisque ces terrains amodillés sont, si vous voulez, la corollaire de l'existence du port.
Oui, non,
comment imaginer un port sans
parce qu'il était question à un moment donné que justement tout ce qui est technique au niveau du port de Carnot soit déplacé le long du canal.
On a envisagé certaines choses avec le triangle notamment. Le porté à connaissance du nouveau PRI démontre des restrictions encore plus importantes que les précédentes. Donc aujourd'hui, l'idée est à nouveau à proximité du plan d'eau d'attribuer l'un pour à côté du stockage à terre,
oui.
L'autre à côté de la darse de mise à l'eau et pardon ?
Ancien pont marais.
Voilà, c'est l'ancien pont marais. Voilà. Bon, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit à la hauteur des ambitions en termes de reconfiguration du port, d'accompagnement de ses activités. Ce qui est aujourd'hui, ça souffre quand même un petit peu d'une certaine vétusté, ne serait-ce que l'apparence.
Une certaine modernité.
Voilà.
Donc, l'important, c'est de savoir, c'est que les gens qui reprendront. Qui prendront la succession de ça seront dans le même contexte professionnel que ceux
tout
qui
à fait, tout à fait, d'accord. Pour des durées plus importantes.
Oui.
Peut-être que ce sera 15 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas.
Okay.
Le contrat n'est pas encore refait, il sera bien sûr voté ici, débattu,
oui.
Débattu et voté au conseil municipal. Voilà.
Merci.
Je vous en prie. On passe au vote.
La procédure de sursis, on l'a fait pour une année, on peut la faire encore une année ou pas ? Ou c'est pas légal ?
On peut sursoir une deuxième année ? Il me semble qu'une année, c'est suffisant parce que il est
toujours... 2020, on sera au four au moulin. Hein.
Bon, moi.
Moi, qu'est-ce que tu fais, Lyonnais ?
Moi, je pêche, hein, mais je vous vois courir.
Il y a des boulangers et des meuniers. Allez, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Ensuite, provision pour dragage du port de Carnot. Donc, vous le savez, le dragage est un sujet que nous avons moult fois évoqué. Donc, nous savons qu'à l'heure actuelle, il est évoqué une nécessité d'un budget de 2 millions d'euros pour draguer d'ici 2 ans, dans les 2 ans qui viennent. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est, au regard de l'exercice budgétaire 2018, de verser une provision supplémentaire de 200 000 euros aux 842 000 qui étaient déjà accrédités pour qu'on arrive à une provision qui dépasse le million d'euros. Nous voulons, mettre toutes les chances de notre côté, en espérant toutefois que la note sera moins importante que ce qu'elle est, puisque l'État a été saisi de notre demande et que certaines pistes sont étudiées pour justement voir où on peut déposer ces sédiments ailleurs qu'en clapage dans le port de Sète, dans la fosse de Sète, qui est une des solutions avancées, c'est celle qui coûte 2 millions d'euros aujourd'hui par la région. Voilà, donc la région travaille sur ce sujet. Je vous propose que nous passions au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je passe la parole à Mme Caroline Favier, qui va nous parler des modifications au budget principal de la commune.
C'est ça. La décision modificative numéro 2 pour le budget principal de la commune. Donc là, il s'agit juste d'un jeu d'écriture. Nous avions déjà acté ensemble du prêt de 7 000 euros pour l'école de musique. Ces 7 000 euros étant remboursables au 1er décembre 2018, il faut que nous passions une écriture pour que ce soit affiché dans nos comptes en termes de prêt. C'est tout. Voilà. Donc je vous demande si vous voulez bien adopter cette modification numéro 2, s'il vous plaît.
On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Alors, oui. Le point numéro 10, il s'agit aussi d'une décision modificative, cette fois-ci pour le budget annexe du port. Donc c'est suite au compte administratif que nous avons vu et voté lors du dernier conseil municipal. La distribution des différentes recettes et notamment les 200 000 euros dont on vient parler, la dotation aux provisions qu'il faut affecter sur le budget. Voilà, donc même chose, je vous demande de bien vouloir adopter cette modification.
Une question technique, je ne comprends pas pourquoi, comment on a articulé la délibération précédente, celle qui nous autorisait à faire une provision pour risque, et cette décision-là qui est de type budgétaire. Pourquoi on ne fait pas directement celle-ci? Pourquoi on a fait deux votes séparés juridiquement?
La décision modificative du budget annexe correspond à l'équivalent du budget supplémentaire. C'est-à-dire que vu que cette année, il n'y a pas de budget supplémentaire, puisqu'on a affecté tous nos résultats par rapport à tous les travaux qu'il y avait, tous les investissements, on ne fait pas de budget supplémentaire. Donc la trésorerie nous a dit qu'il faut passer une décision modificative pour l'annexe du port, puisque n'en faisant pas pour le budget principal de la commune, on ne pourra pas en faire sur le budget.
Ça, j'ai bien compris, mais la question, c'est pourquoi on a voté
Parce qu'il y a deux choses différentes. La première, vous acceptez qu'on mette la provision des 200 000.
Ouais.
Et là, vous acceptez la décision modificative et donc l'affectation de...
Et la décision modificative, est pas, quand on le fait en BS, c'est suffisant pour que ça se suffit. Et en DBM, ça ne se suffirait pas. Juridiquement, si on passait juste une DBM, ça ne serait pas suffisant?
Non, c'est... Je ne sais pas si ça aurait pu suffire. A priori, il fallait passer celle aussi pour l'affectation des... Pour la provision. Donc, voilà. Pour l'attribution d'une... Je vais y arriver, je l'ai plus terme. Pour le... Attendez, je vous le recherche. Voilà, pour réaliser les 200 000 euros, la dotation, je vais y arriver, aux provisions, il nous faut une délibération. Donc on doit le passer à chaque fois. Alors peut-être que les autres fois, ça ne correspondait pas au budget supplémentaire ou à notre vote de budget. C'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas eu. À chaque fois, on les a passés à chaque fois, oui. Mais je pense que ce n'était pas forcément le même jour où on a signé, où on a voté un budget, tout simplement.
Et alors, le fameux bac qui nous coûte si cher, il est sur le budget du pont ou sur le budget principal?
Non, non. La commune.
Alors, je vais vous dire, sur le, il me reste des sous sur le budget du port. Je vois...
Oui, il nous manque surtout 1 000 000 pour payer le dragage, voilà. Monsieur Fredeil.
Non, mais là, moi, je vois des pinces, c'est prévu 50 000, là, on n'est pas loin. Voilà. Là, mais, vous avez mis quelques noisettes de
côté. Justement, c'est le débat qui aurait été prévu, mais là, c'est pour les imprévus.
On met un gars, un chou et des carottes.
Non.
Allez. Non, c'est budgétairement, on ne peut pas faire autrement.
On ne peut pas faire autrement.
Mais j'aime votre esprit de simplification, monsieur Fredeil. À condition que ce soit pas caricature.
Hein. Pas de pour...
Allez, on passe au vote.
Oui.
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Donc le point numéro 11, il s'agit d'un partenariat que nous avons avec les banques sur la commune. À chaque naissance d'un nouveau petit Melgorien carnonné, les banques qui ont ce partenariat donnent un montant sur un livret A et la commune donne ce même montant, ce qui en général est 30 euros. La Banque Populaire n'était pas partenaire jusqu'à présent et demande à l'être. Donc il faut simplement le voter. Et
qui c'est les banques qui donnent le plus?
Qui sont les banques qui
donnent le plus?
Quelle épargne?
Il y a un temps que je n'ai pas eu un enfant. Je ne peux pas.
Je serais mal placée pour dire qui est la banque qui donne. Je vous inviterai à aller voir les annexes qui sont jointes au conseil municipal.
Alors,
dans un souci de cloisonner.
Caisse d'épargne, CIC, Crédit Agricole, Crédit Agricole donne 30 euros. Crédit Mutuel 20, Crédit Lyonnais 45. Paribas 30, Société Générale 20. C'est public.
Oui, on
doit
le
rendre public. Vous les avez dans les annexes du conseil.
Vous allez faire gagner 15 euros au petit Magorien et 40 euros à un câble public.
Vous les avez dans les annexes.
Bien. Allez, on passe au vote. Contre, abstention. Merci. Bernard, rapport d'activité 2017 et reménagement.
Oui. Donc, conformément aux dispositions de l'article L524-5 du Code général des collectivités territoriales, la Société d'économie mixte et d'aménagement nous a transmis un exemplaire de son rapport d'activité 2017 afin qu'il soit présenté à l'Assemblée. Vous avez tous eu ce rapport en annexe. Il a pour but de donner une information sur l'activité et les résultats de la SEM en 2017 et il vous est demandé de prendre acte de ce rapport.
Merci Léonard. Dans la foulée, tu peux prendre le 13. On ne monte pas. C'est prendre acte.
Alors le 13, c'est travaux de remplacement de portes à l'hôtel de ville de Moglio, c'est-à-dire dans notre immeuble où nous sommes actuellement. Donc dans le cadre de l'entretien de notre hôtel de ville, il est nécessaire de remplacer les trois portes d'accès qui sont celles qui donnent sur la rue Marcelin Albert, cette rue-là. Il y a trois portes d'accès et deux portes de coffret technique. Alors, pourquoi les remplacer? Bon, il y a une dégradation, vous l'avez vu, des parements en pierre. Ces parements en pierre pesant très lourd, les portes ont du mal à fermer maintenant. Il nous faut les remplacer. Et malheureusement, on ne peut pas les remplacer à l'identique, étant donné que pour décoller les parements en pierre de la façade et les dévisser, on est obligé de les casser. On ne peut pas les enlever. Et on ne trouve plus les mêmes parements en pierre. Donc on demande l'autorisation, bien sûr, à l'architecte des bâtiments de France de nous autoriser à mettre des portes métalliques à la place de ces portes-là, sachant que ces portes sont importantes, puisqu'il y en a une qui est une issue de secours, et deux qui nous donnent accès au matériel technique, au relevé, enfin au compteur, etc. Voilà. Et comme vous le savez, quand il s'agit de bâtiments publics, le maire doit demander l'autorisation au conseil municipal de pouvoir déposer une déclaration de travaux. Voilà l'objet de ce point. Donc nous vous demandons de bien vouloir autoriser le maire à déposer la déclaration préalable.
Merci Bernard, bien expliqué. On passe au vote. Votre contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Jacques, tu nous parles de l'avenue Jean Moulin.
Oui, c'est dans le cadre, disons, de la dissimulation des réseaux téléphoniques. Au même titre qu'on avait passé une convention avec Aéroénergie pour l'énergie électrique et l'éclairage public. Ces réseaux, bon, Orange prend à sa charge, disons, le câblage et les études, et nous notre participation, c'est, disons, la réalisation de tout le génie civil. C'est de demander au maire et l'adjoint de la déléguée de signer tous les documents relatifs à cette affaire. Les travaux vont commencer, disons, la première tranche vont commencer dernier trimestre, c'est-à-dire courant octobre. C'est la partie vacancier archinelle.
Est-ce qu'ils vont en profiter pour mettre la fibre optique?
Oui, c'est fait.
Merci. On passe au vote. Contre, abstention. Merci pour la venue. Et les riverains, Jacques, tu continues.
Approbation de la convention d'Avril Simbo pour la pose et la surveillance, l'entretien et la protection des repères de crues. Comme vous le savez, la loi du 30 juillet 2003 impose, disons, de poser des repères de crues en fonction des derniers événements climatiques. Et de proposer au moment du conseil municipal d'adopter la convention avec le Simbo, définissant les engagements réciproques du Simbo et de la commune, et d'entériner les 6 emplacements proposés à la mise en place de ces repères. D'autoriser M. le maire et l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
Merci Jacques. On passe au vote. Pas de remarques. Contre, abstention. Merci.
J'ai juste une question à la marge, parce qu'on parle des crues. J'avais déjà évoqué le sujet. Je ne sais pas si ça a été réglé, mais parce qu'il semblerait que le système d'alerte ne fonctionne pas sur les téléphones fixes. Voilà, donc c'est des personnes qui m'ont interpellé sur ce sujet.
Oui, les SMS ne sont pas reçus sur les téléphones fixes.
Et comment ils font alors? Ils n'ont pas accès au système d'alerte.
Si, il y a un message vocal qui est un SMS.
Ils ne reçoivent plus le message vocal. Depuis qu'on a changé de société ou de système, ils ne reçoivent plus les messages.
Ils n'ont pas changé de société.
Non. Et c'est des gens qui recevaient avant, qui reçoivent plus.
Et je pense qu'il faut définir, si on fait un peu d'être envoyé ici,
qu'ils se déclarent à l'accueil et qu'ils redonnent leur coordonnées, on les remettra dans le logiciel. Sachant qu'il vaut mieux donner un téléphone portable. Tiens,
bien. On passe au vote. Contre. Alors, on avait déjà voté. Alors, point numéro 16. Patricia, participation à l'association La Joie de Vivre.
Oui, c'est le partenariat avec l'association La Joie de Vivre pendant la fête Vautier 2018. Donc là, il s'agit de la convention de partenariat que nous souhaitons passer avec l'association La Joie de Vivre pour l'animation du défilé de la fête Vautier 2018. Alors, en contrepartie de cette prestation, au maintien de nos traditions et des valeurs que nous véhiculons pendant la fête votive, nous proposons d'allouer une somme forfaitaire de 400 euros à cette association. Il vous est donc proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention de partenariat pour cette édition 2018.
Bon, une association très, très active sur la ville. On passe au vote. Contre, abstention. Merci pour eux. Point 17, Patrick.
Alors, le point 17, on change de registre. Il s'agit là d'un don d'ouvrage ancien à la métropole de Montpellier-Méditerranée. Alors, dans un souci d'organisation de nos collections, il nous faut procéder régulièrement à ce qu'on appelle, à ce qu'on définit comme un désherbage de nos collections. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, 9 ouvrages sont en donation. Vous avez les titres sur la délibération qui sont là. On ne peut plus les conserver. Il faut qu'ils soient conservés dans des endroits, propres à une conservation effective. On ne peut plus le faire. Donc nous proposons d'en faire don à la médiathèque Nicolas pour que ces ouvrages soient conservés dans de meilleures conditions. Voilà. Et valorisés, bien sûr.
On vote pour ça, contre, abstention, merci. Toujours parti, point 18.
Alors, le point 18, ce sont les conventions de pour le soutien à la création au spectacle vivant, les conventions de résidence. Alors, le soutien à la création, vous le savez, c'est un axe fort sur lequel nous construisons une partie de notre politique culturelle. Nous travaillons de concert avec plusieurs compagnies, des groupes d'artistes auxquels on permet de développer le travail de création et de le présenter ensuite à un large public par le biais de la programmation culturelle, notamment au théâtre, Alors cette saison, nous proposons des conventions de soutien à la création pour 4 compagnies qui sont la compagnie Bruit qui court, la compagnie Blabla Production, la compagnie Doré et la compagnie Itinéraire Bis, compagnie pour lesquelles vous pourrez voir les spectacles donc, sur la programmation culturelle de la nouvelle édition. Il vous est donc proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer ces 4 conventions de partenariat cette édition 2018-2019.
Bien, parce que personne ne peut s'opposer à cela. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Unanimité. On continue, Patrick Dina.
Alors, le point 19 est un point sur la modification des tarifs communaux 2018. Alors, en premier lieu, sur un tarif qui réglemente la rediffusion sur écran géant sur le domaine public dans le cadre du plan Vigipirate. Dans le cadre de ce plan, le ministère de l'Intérieur a soumis une sécurisation précise à mettre en œuvre pour chaque diffusion de matchs de football lors de la Coupe du Monde de football 2018. Alors, ce sont des mesures qui impactent, bien sûr, le tissu commercial, mais qui impactent aussi la commune, puisque nous avons dû mettre en place certains dispositifs de sécurité, notamment passive, des agents de police municipale, et bien sûr, des agents liés aux services techniques pour mettre en place tout le dispositif. Aussi, nous proposons d'appliquer une tarification forfaitaire de 100 euros pour chaque match diffusé et ce pour chaque établissement pour contribuer bien évidemment à couvrir les charges supplémentaires qui ont été liées à la diffusion de ces matchs lors de la Coupe du Monde de football.
Oui, personnellement, moi j'ai voté contre cette proposition parce que je trouve que c'était le rôle de la commune de soutenir les cafetiers qui ont quand même eu le courage de maintenir. Et il y avait énormément de monde sur la place de la mairie les jours du match. Oui, parce que c'était beaucoup de travail, ils ont été débordés, puisque les gens qui n'étaient pas clients au café, oui, mais si la mairie avait organisé la finale, ça aurait été mieux. Les gens qui ne voulaient pas boire un café, ils auraient pu assister au match. Là, donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient déçus, beaucoup de gens qui repartaient chez eux. Et en plus, les mettre à l'amende pour le travail qu'ils ont fait, parce qu'ils ont rendu finalement un service public, je trouve que c'est très pingre, même si c'est 100 euros, je trouve que c'est très pingre.
Voilà. À l'amende,
M. Mourier, oui, je le dis comme je le pense. Je le dis
est-ce
comme
que votre conception du service public est que la mairie
oui. pense Oui. Les cafetiers, combien ils rapportent la place? Combien ils rapportent la place hein? Est-ce qu'on a des chiffres? J'aimerais savoir combien ils rapportent à la commune la place. Pas grand-chose.
En termes de manifestation et tout ce qui est...
En plus, les bornes étaient installées parce que c'était le 15 juillet.
Qui est mis à disposition des cafetiers qui sont tout autour de la place, tout au long de l'année. Nous développons énormément le spectacle hors les murs. Il y a énormément de choses qui se passent sur cette place.
Oui, mais là, on était dans un cas particulier. On était en finale de la Coupe du Monde, ça arrive que tous les 20 ans. On arrive à la finale de la Coupe du Monde qu'une fois tous les 20 ans.
Alors, vous savez, la finale de la Coupe du Monde, ça aurait pu prendre notre forme. On aurait pu éventuellement, effectivement, s'il y avait beaucoup de monde, positionner cette Coupe du Monde, cette finale, la positionner sur la plaine des sports, de façon à avoir une réelle fan zone et mettre un dispositif.
On aurait pu, oui.
Avec un coût énorme, bien évidemment, et pour lesquels les cafetiers, là, n'auraient rien. Je pense que la solution.
On pouvait faire une fan zone sur la place de la mairie aussi.
La solution médiane qui a permis à tout le monde de profiter de cet événement.
Mais au moins qu'on ne les fasse pas payer, c'est ce que j'ai dit. Au moins on les remercie. Parce qu'ils ont rendu le service public. Il fallait voir les gens. Il y a même des gens qui repartaient avec leurs chaises sur le dos. Les gens, ils étaient venus avec leurs chaises. Voilà. Donc, ils ont rendu le service public, oui, je le dis.
Débourser 13 000 euros pour un écran.
Non, mais là, on parle de les amender pour le travail qu'ils ont fourni.
Non, mais on les a reçus avant la manifestation.
Je sais tout.
Voilà.
C'est pas à peine de le dire.
Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Allez, on passe au vote. Monsieur Pradé, pardon.
Oui, sur. D'abord, je vous demande l'autorisation de voter cette délibération par chapitre.
Ah oui,
donc de faire en 3 votes séparés. S'il faut qu'il y ait autre accord, qu'on puisse le faire, ce qui nous permettra de voter pour les autres.
Attendez, vous voulez dire.
Le A, le B et le C.
Oui. Non, mais normalement, il y a une seule délibre. C'est le même numéro de délibre.
Donc, 3 votes. 3 votes.
Donc moi, par rapport à cette délibération-là, le régalien, la sécurité, ça relève de l'État. Ça ne relève pas de nous. Je le dis parce que ça impacte aussi les questions de la pression que nous met le préfet sur les questions de fait. Et je le dis parce qu'il faut, il faut pas accompagner le préfet là-dessus. En France, la sécurité, elle est d'abord assumée par l'État. Donc le fait de faire une délibération où on dit qu'on mutualise en mettant une taxe sur à cause de Vigipirate, c'est une faute tactique. Parce que si le préfet commence à vous dire que la sécurité, il faut la payer, vous allez reculer et vous allez vous retrouver à avoir des TVM par rapport à la fête et par rapport à nos prestations. On est toujours en concurrence avec la feria de Béziers, avec la feria de Nîmes, ainsi de suite, et ils préfèrent toujours aller dans ces grands ensembles et massacrer les villes intermédiaires. Donc là-dessus, il ne faut pas céder un centimètre carré. Donc le fait de dire que c'est par rapport à Vigipirate qu'on fait payer, c'est une bêtise politique. C'est à l'État d'assumer la sécurité, et certainement pas à nous. La sécurité, nous la payons dans le budget d'État. Donc on refait payer une sécurité qu'on a déjà payée. C'est la solidarité nationale qui fait ça. Et l'État a les moyens de le faire. L'État a les moyens de le faire. Mais le TAF, pour l'instant, il fait d'autres choix.
Mis à part que la responsabilité relève de l'autorité du maire et du conseil municipal.
Oui.
Et moi, le discours me va bien, mais le côté pratique de son application me pose problème.
C'est la première, si vous voulez, première question. Et on a une fragilité, parce qu'on sait très bien que l'État veut nous faire en sauter une partie de nos fêtes votives. On ne le dit pas parce qu'on est discret et qu'on mène le combat dans les couloirs. Mais la population nous le reproche en disant que c'est nous qui voulons fermer les fêtes votives. Donc je le dis devant la presse, ce n'est pas nous qui faisons pression.
Monsieur Pradet, je pense que la population a fait bien le distinguo et a bien compris avec l'équipe qui est en place qu'effectivement, en ce qui concerne les fêtes votives, il n'était nul, ce n'était pas d'actualité et qu'on ne suivait pas ce genre de...
Mais il y a depuis des années, il y a cette tension avec le préfet. Sur par rapport à nos fêtes et par rapport à la sécurité, le préfet préférerait mettre la sécurité ailleurs. Ça, c'est le premier point. Donc le fait de tenir un poste de Vigipirate dans une de nos villes, c'est une faute politique. Deuxièmement, ils payent déjà un gros de terrasse. Qu'est-ce qu'on donne comme presta en plus? On ne donne rien en presta en plus, en presta supplémentaire.
Un élargissement de l'ordre de terrasse.
Oui.
Mais dans ce cas-là,
la sécurisation de la place, le lendemain. Je suppose que vous avez peut-être vu, M. Pradet, l'état de la place à l'issue de la diffusion des matchs.
Oui.
Donc on est bien d'accord que le lendemain, effectivement, oui. on a aussi une prestation à amener, une prestation supplémentaire qui est à amener par rapport à ce qui se fait d'habitude.
Mais, alors,
je pense que la somme, effectivement, M. Bourguet-Ceinture, mais la somme forfaitaire de 100 euros par rapport à effectivement ce qu'a dû rapporter cette manifestation,
quelque chose
d'aller.
Non, mais le principe est sûr. Quel que soit le montant. Hein.
Moi, Prenons le coût, le coût à la collectivité. Bon, est-ce qu'on a un chiffrage du coût, du surcoût de cette soirée-là? On n'a pas de chiffrage exact et administratif. J'imagine que les services vous ont pas fait de notes. Donc on n'est pas capable de... Peut-être que les économies de Capelletti, on parle de ça pendant qu'il n'est pas là. Peut-être que les gains de productivité, on les fait passer là. Et peut-être que c'est très bien. Mais si on parle de coût, une ville comme Lunel qui a 3 000 habitants de plus que nous, ils se sont retrouvés sous pression. Parce que ça, si, ils sont à 24 000. Bon. On va avoir la même pression que Montpellier a eu, que Lunel a eu, sur comment vous faites pour avoir un écran jump, pour avoir une fan zone. Là, on a de bons professionnels qui font vivre la place. Il faut les accompagner. Et puis ces professionnels-là, même s'ils font un peu, c'est eux qui sont les locomotives. Si on n'a pas la place, vous êtes placé pour savoir qu'on a des problèmes dans la grande rue, des problèmes de commerce. Et ceux qui nous sauvent, c'est les commerçants, c'est les cafés qui entre autres de la place. Et ils tiennent comment? Ils tiennent sur les animations qu'on fait, sur la fête, et c'est là qu'ils font leur fond. Et ils sont ouverts à l'hiver.
Vous avez l'accompagnement lié, vous venez de le dire.
Oui, mais enfin, on est une équipe. Faut la municipalité et les commerçants, il faut qu'on le vive ensemble. On ne va pas aller taxer des gens qui nous aident à faire vivre le cœur du village. Ça n'a pas de sens. Surtout pour 100 balles. Oui. Si on fait le ratio entre le coût réel et les 100 euros que vous allez demander, ça n'aura pas de sens budgétairement.
Vous ne pouvez... La délibération coûte plus cher que ce qu'elle va vous rapporter. Mais si la délibération, celui qui a rédigé, si vous faites le truc et si vous regardez la récurrence de ce que vous allez rentrer, la délibération nous aura coûté plus cher que les recettes que vous allez rentrer. Donc ça n'a pas de sens.
Monsieur Pradeil, c'est votre avis. Ici, vous voyez, nous sommes un symbole. Marianne, c'est un symbole. Ce qu'on fait payer, c'est aussi un symbole. Moi, je crois au symbole. C'est-à-dire que tout n'est pas acquis, tout n'est pas donné, tout n'est pas dû. Je pense que la concertation qui s'est tenue avec la profession, qui a débouché sur cela, est une bonne disposition. Et la place n'a jamais été aussi animée et encouragée par le spectacle hors les murs, par les manifestations, qui sont ce qu'elles sont, je ne vous demande pas de dire qu'elles sont très bien, mais qui animent régulièrement la place avec des conditions de sécurité qui ne sont pas celles que nous avons toujours connues, qui nous ont valu des fois lire l'inimitié de certains commerçants. Votre discours plaide pour une philosophie qui est la même. Ensuite, pour cette disposition spécifique, nous avons convenu avec les commerçants qu'il y aurait une participation, pour certains, symbolique. Et j'avais proposé, mais je ne veux pas rentrer en discussion qui n'intéresse pas grand monde, j'avais proposé aux commerçants, écoutez, on fait moitié-moitié, vous faites un geste, on fait un geste. Ils ont dit non, ça ne marche pas, ça nous fait trop cher. Eh bien, on ne le fait pas. C'est pas grave. Mais cette place vit comme jamais. Parler avec les gens qui viennent de l'extérieur, à supposer que les Mélégoïnes ne se sont pas aperçus. Après, bon, vous êtes dans une posture, ça vous regarde, vous exprimez votre point de vue. Point. Voilà. Oui.
Moi, simplement, pour rendre à l'équipe de France le mérite qui lui revient, M. Bourguet a dit qu'on allait en finale tous les 20 ans. Non. On gagne la finale tous les 20 ans, mais nous sommes allés en finale en 2006.
Exactement.
Que nous avons perdu contre l'Italie.
Je m'excuse.
Voilà. C'est tout. C'était pour eux.
Et si on perd, finalement,
on passe au vote de ce premier volet. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point B, parti.
Alors, point B, toujours les tarifs. Mais alors là, ce sont les tarifs des bracelets des membres des bandes de jeunes pour la fête votive 2018. Donc, depuis 2009, des bracelets passe-fête ont été mis en place pour permettre aux festagères de se rendre gratuitement aux arènes pour assister aux courses et aux tours aux piscines. Alors, cette année, afin de simplifier le dispositif, nous avons réduit les tranches à 2 tranches tarifées au lieu de 3. Avec toujours une gratuité pour les mineurs, qui nous donne un tarif de 10 euros pour les 18-25 ans et de 15 euros pour les plus de 26 ans. Et je tiens à rappeler que l'intégralité de ces recettes sont reversées en partage à tous les clubs touraines de la commune, hein, et à l'école des raseteurs, bien entendu.
Allez, on passe au vote. Contre? Abstention? Merci. Point C, gratuité d'inscription médiathèque de la commune. Ça, c'est Sophie. Campagne.
Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal la volonté de rendre gratuite l'inscription aux médiathèques de l'Ancre et Gaston Besset. Poursuivant l'objectif de démocratisation culturelle, d'accès du plus grand nombre à la culture et de développement de la lecture publique, la ville souhaite étendre la gratuité d'inscription dans les médiathèques à l'ensemble des usagers. L'inscription permet la délivrance d'une carte d'abonné ouvrant droit à l'emprunt de livres et de documents audiovisuels ainsi qu'à l'accès à l'ensemble des ressources numériques en ligne. Elle participe à l'augmentation et la recomposition des publics des médiathèques et se définit comme un vecteur d'égalité sociale. En effet, bien que modérés, les tarifs existants peuvent représenter un frein pour certains. Le nombre d'usagers non inscrits est croissant. Ils utilisent le lieu pour accéder à Internet, consulter la presse, demander de l'aide dans les démarches administratives notamment. Et parmi ces séjourneurs, certains sont issus de catégories sociales défavorisées ou en situation précaire. Une inscription gratuite leur ouvrira l'accès à l'intégralité des services proposés, et notamment ceux en adéquation avec leurs besoins, tels que la formation à distance ou la presse en ligne. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à modifier les tarifs communaux 2018 pour rendre gratuite l'inscription aux médiathèques de la commune.
Bien, pas de commentaires. Monsieur Pradeil.
Si, j'ai demandé en aparté, j'ai demandé le coût. On m'a dit que c'était à peu près
qu'on renonçait à une recette de 11 000 euros.
Oui, 11 840 euros.
Qui doit être rattrapable assez facilement, hein, avec tout ce qui arrivera en retard, qui vont venir. Ils rattraperont les 11 000. Mais on peut peut-être faire des prestations qui peuvent avoir un ou deux photocopieurs payants, ça, qui peuvent. Qui peut, non, mais qui peut avoir des recettes. On peut imaginer des recettes pour récupérer.
On a maintenu la photocopie, sachant que c'est très très peu de recettes, parce que le coût d'une photocopie, c'est insignifiant.
Je suis sûr qu'on peut. Mais, donc, c'est pas. En fait, ça fait une grande avancée pour une somme qui
très,
semble.
Très raisonnable.
Qui semble très raisonnable. Je pense que c'est une des meilleures délibérations du mandat.
Merci, M. Fadet. Nous sommes toujours dans les symboles, Gérard de Marianne. Bien, merci. Merci pour votre commentaire. On passe au vote. Contre, abstention, unanimité, merci. Sophie, tu continues ?
Non, c'est moi.
Ah, c'est rien.
Ah oui, c'est
rien. Oui, parce que moi, je ne suis pas.
C'est pas bon. Non, on est à 21 sur le projet de l'histoire.
On en est au renouvellement de la convention.
Moi, j'en étais au renouvellement de la convention.
Mais ouais. C'est Sophie.
Ah, mais si, c'est toi, là.
Non, mais.
Je permets. Donc, le point 20, excusez-nous, renouvellement de la convention pour l'activité scolaire voile 2018-2019 avec le Yacht Club de Mondiaux-Carnon. Donc, monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal le projet de convention relatif au renouvellement de l'organisation de l'activité voile pour les écoles élémentaires de la commune et pour l'association sportive du collège de l'Étang de l'Or. Cette activité comprend l'apprentissage de la voile et la découverte du milieu marin. La prestation comprend la prise en charge de 8 séances pour les classes de CM1, classes multiniveaux comprenant des élèves de CM1 des écoles élémentaires de la commune, 4 séances pour l'école de Vauguières et des mercredis après-midi pour l'association sportive du collège de l'Étang de l'Or. Les cycles se finalisent en fin d'année scolaire autour d'une rencontre ludique et conviviale, le Challenge des Moussaillons. Le coût de ces prestations est fixé à 180 euros TTC la demi-journée ou 360 euros TTC la journée. Monsieur le maire propose de reconduire ce projet de convention pour l'année scolaire 2018-2019 et de signer avec le Yacht Club de Mondiaux-Carnon.
Merci Sophie. On passe au vote, si vous voulez bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Bourse au projet méritoire, madame Sanchez-Bresson.
Pour le coup, ça y est. Donc là, c'est par rapport donc, à une bourse au projet méritoire d'un jeune de la commune donc, qui est passionné par la mode et la création, qui est graphiste et illustrateur. Donc, il a créé sa propre marque de vêtements, il est en plein développement et il a donc il souhaitait partager sa passion, son regard sur la mode avec la jeunesse de Mondiaux. Du coup, il est venu nous proposer pour une participation bénévole dans le cadre de la Wake Up qui a fait 1000 jeunes d'ailleurs, la Wake Up. Donc il a participé, ça a permis effectivement des échanges, une organisation d'un défilé de mode avec des mannequins, shooting photo, etc. Et donc nous vous demandons d'approuver le versement d'une bourse au projet méritoire donc pour Justin, pour l'aider à continuer dans ce projet, la création de son entreprise.
Bien.
Voilà, 500 euros. Oui, merci, pardon. C'était écrit, c'est évident.
Contre, attention, merci pour lui. Et de l'amitié d'astreinte des agents privés du port. Donc vous le savez, le port est un SPIC. Donc, excusez-moi. Modification de vos effectifs. Donc, je vous rappelle que depuis 2015, la régie municipale du port est soumise aux règles applicables du SPIC, ce qui fait que tous les recrutements qui interviennent font désormais l'objet de contrats de droit privé. Concrètement, on avait avant des fonctionnaires territoriaux. Aujourd'hui, les fonctionnaires territoriaux, quand ils sont renouvelés, laissent la place à des personnels soumis aux règles de droit privé. Donc, en date du 25 juin 2018, un poste technicien de territorial de droit public a été transformé en responsable technique, autorisant ainsi la signature d'un contrat de droit privé. Donc, à ce jour, les fonctions de responsable technique ont été attribuées à l'interne un agent portuaire en poste qu'il convient dès lors de remplacer. Donc nous devons recruter un agent portuaire de droit privé et je vous demande pour 6 mois un poste susceptible d'être transformé en contrat durée indéterminée. Donc je vous demande de m'autoriser à transformer la transformation.
transformer un emploi de droit privé de responsable technique de la régie portuaire en emploi d'agent portuaire de droit privé à compter du 1er août 2018.
Pardon, monsieur le maire, les salaires sont les mêmes ?
Non, ils sont supérieurs pour ceux qui sont de droit privé, un petit peu supérieurs. Ouais.
Et ça veut dire charge supplémentaire. Hein.
Et oui. 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 C'est pas des.
Je comprends bien la délibération si je dis qu'avant c'était un emploi de droit public et que ça devient un emploi de droit privé.
Oui.
Parce que dans le libellé, je ne sais pas si on a rédigé. Décide la transformation d'un emploi de droit privé. On n'aurait pas dû dire de droit public.
Alors, décide la transformation d'un emploi de droit privé.
De responsable technique de la régie portuaire en emploi d'agent portuaire de droit privé. Oui. C'est privé-privé. C'est pas public-privé, c'est pas ça qu'on est en train de faire, c'est pas une bascule.
Si c'est public, ça va. Oui. Oui.
Non, mais ce qu'il dit, c'est que c'est un emploi de droit public au départ.
Au départ, c'est public.
Et non, parce qu'on est en régime autonome.
Pour le CDI, le CDD, c'est ça qu'on est en train de faire ?
Non.
C'est public ou privé ?
Et c'est. Oui, mais au final, c'est vrai qu'au départ, on avait quelqu'un qui était.
La question, c'est est-ce qu'on a un poste budgétaire ?
Non, mais on l'a déjà fait.
Est-ce qu'on a un poste budgétaire ?
On ne change rien. C'est simplement le
libellé privé.
Oui.
D'accord. Alors,
voilà.
C'est ma première question.
Oui, parce qu'on l'avait déjà passé un jeu.
La deuxième question, c'est est-ce que dans un SPIC, il nous est interdit d'embaucher les fonctionnaires ?
Non. Ben non. Mais le fonctionnaire, à ce moment-là, il change de statut.
Non.
Pardon ?
Il est nouveau.
Sur des postes existants.
Alors, question, si vous avez un directeur de droit public et que vous avez un poste budgétaire de droit de directeur de droit public, vous pouvez le maintenir ?
Oui, oui.
Et si donc, on crée un poste, on peut.
Voilà, c'est
si créations, un nouveau poste.
C'est ça.
Bon. Donc, monsieur le maire, rappelle aux membres du conseil municipal que depuis 2015, la régie municipale du port est soumise aux règles applicables au SPIC. En conséquence, tous les recrutements intervenant sur l'effectif de la régie du port sont désormais l'objet de contrats de droit privé. Si c'est sur un poste public, c'est pas vrai.
Oui. Tous les nouveaux recrutements.
Si on recrute, mais que le poste reste un support
de droit public. Alors, tous les nouveaux recrutements.
Non mais.
Les remplacements peuvent rester.
Tous les
nouveaux.
Oui.
Je vais casser le poste.
Quand il n'y a pas de création de poste.
Voilà. Là, sur ce coup-là, vous êtes bon. C'est bien.
Mais je ne vous n'allez pas savourer, mais.
C'est pas non plus l'état de travers, c'est déjà oublié. Nouveau recrutement, d'accord.
Ça, c'est important par rapport à nos personnels parce que y a, si on veut être fonctionnaire et qu'on est passionné de la question portuaire, on est bienvenu à Carnon. Il ne faut pas faire passer à nos fonctionnaires qu'il y a une espèce de rejet de la fonction publique. Bon, il y a du droit privé, c'est bien, mais on peut aussi être un fonctionnaire et avoir toute sa place à. Au port de Carnon.
Ce qui compte surtout, c'est la capacité des gens sur des métiers spécifiques. Alors après,
oui, le statut, bien sûr. On a des fonctionnaires très techniques, hein, c'est possible. Hein. Donc, vous savez, j'ai vu arriver le directeur du port de Marseille à la région, quand on l'a recruté, il était technique, hein, vous inquiétez pas.
Bien. Allez, on passe au vote.
Des fonctionnaires très haut niveau.
On passe au vote. Qui est contre ?
Avec la, sous réserve de la
demandation. Oui. Oui, bien sûr. C'est noté. Nouveau, écoutez-moi. Contre, abstention, merci. Indemnité d'astreinte des agents privés du port. Donc, je rappelle bien sûr que depuis 2015, la régie est soumise aux règles applicables au SPIC et qu'il convient effectivement d'harmoniser les tarifs en fonction de leur statut de droit privé du port de Carnon sur la base des montants votés par ceux des agents publics par la délibération du 25 juin 2018. Donc, vous avez. La liste des émoluments et des jours qui varient en fonction si c'est un week-end, pas un week-end. Voilà. Donc moi, ce que je vous demande, c'est de m'autoriser, donc de décider la mise en place des astreintes des agents portuaires de droit privé aux rémunérations qui sont indiquées. Et contre, s'abstient. Je vous remercie. Alors, en avenant avec la médecine préventive, donc le centre de gestion publique de le CDG 34 souhaite modifier la tarification liée aux visites médicales. Donc, cette mise en 65 euros le rendez-vous de 20 minutes, 40 euros le rendez-vous infirmier de 20 minutes et 65 euros par tranche 20 minutes concernant les aides, les actions au milieu du travail. Donc je vous propose de signer l'avenant à la convention relative à la médecine préventive. Bon, ça c'est le travail des RH, il faut se mettre à jour par rapport à ce qu'on demande, voilà. En payant les émoluments qui correspondent. Si vous êtes d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, en venant à la convention d'adhésion à la mission d'appui et de soutien à l'évaluation et la prévention des risques psychosociaux RPS du centre de gestion de l'Hérault. Bon, en fait, le commentaire que je ferai, c'est que la durée initiale de la mission qui avait été signée le 18 mai 2017 était de 10 jours et aujourd'hui, on nous demande de la porter à 13 jours. Voilà. Donc, je vous demande de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à cette convention avec le centre de gestion de l'Hérault. Bon, c'est une question de date et de durée. Si vous êtes d'accord. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, recrutement d'agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Alors là, c'est pour le pôle des jeunesse et solidarité. Donc, dans le cadre du dispositif POSALCO, lié à la fête votive, donc, nous devons recruter 20 animateurs contractuels. Vous savez que depuis quelques années, nous faisons ça en interne, en tout cas avec le service, sans passer par un prestataire extérieur, ce qui fait que nous devenons employeurs temporaire de collaborateurs occasionnels. Donc, je vous demande de m'autoriser à recruter les 20 personnes nécessaires de nature à faire face à l'accroissement temporaire lié à l'activité d'organisation du dispositif POSALCO. Voilà. Du 11 au 20. Vous êtes d'accord? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il y a maintenant un point que M. Bourguet avait souhaité évoquer. Il n'est pas un point supplémentaire, mais M. Bourguet me demande de mettre à l'ordre du jour un débat sur l'implantation des compteurs Linky qui va commencer sur notre commune cette année, ou en 2019. Alors, je n'emploierai pas le terme de débat, le débat est, même si on aura quelques échanges, le débat c'est entre des personnes qui ont des idées sur la question, et c'est un sujet assez technique sur lequel je me dois de vous donner quelques informations, notamment que le déploiement de ce compteur, du compteur Linky, constitue une obligation légale qui s'effectue dans le cadre de la loi de modernisation des réseaux et des normes en vigueur. Qu'en l'état actuel des connaissances spécifiques, scientifiques, aucun élément circonstancié établit l'existence d'un risque pouvant résulter de l'exposition aux champs électromagnétiques émis par ces compteurs et justifiant la suspension de leur installation. Ça, c'est ce que dit la loi. On a 150 compteurs Linky qui sont en service sur la commune. Le déploiement est prévu entre décembre 2018 et décembre 2021. Je vous dis aussi que je vous donne une lecture de quelques dispositions administratives et documents officiels qui encadrent le déploiement de ce compteur. La décision du Conseil d'État du 20 mars 2013 sur les rayonnements électromagnétiques émis par ces dispositifs. Donc, le Conseil d'État a rejeté les demandes d'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2012 relative aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité en rappelant la légalité de cet arrêté vis-à-vis de l'ensemble des textes précédents et encadrant le déploiement des compteurs évolués. Les résultats des mesures des champs électromagnétiques créés par les compteurs Linky menés par l'Agence nationale des fréquences concluent qu'il y a les faibles niveaux d'exposition relevés en laboratoire et chez des particuliers dans le cadre de cette étude confirme que la transmission des signaux CPL, c'est-à-dire grâce au courant porteur en ligne, utilisé par le Linky, ne conduit pas à une augmentation significative du niveau de champ électromagnétique ambiant. Ces faibles niveaux d'exposition respectent les valeurs réglementaires. Dans le cadre de son étude, l'ANFR a mesuré le niveau d'exposition aux ondes du compteur sur le terrain. Ces mesures ont fait l'objet d'un rapport publié le 22 septembre dernier, confirme que les niveaux d'exposition créés par les compteurs Linky sont bien en dessous des valeurs limites réglementaires. Elles ont été réalisées à proximité de 3 compteurs à l'intérieur et 2 à l'extérieur en fonctionnement réel dans les habitations. D'autres mesures réalisées par la suite viennent compléter cet état des lieux. Il est dit que on est entre 100 et 600 fois moins que la valeur limite réglementaire de la bande de fréquence. Les niveaux de champ électrique maximal mesurés à 20 cm des compteurs varient entre 0,25 et 1 voltmètre, c'est-à-dire entre 80 et 350 fois moins que la valeur limite réglementaire de cette bande de fréquence. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus que le tribunal de Montreuil a condamné le 7 décembre la décision du maire de Saint-Denis de s'opposer à l'installation des compteurs. C'est-à-dire que l'Agence nationale des fréquences a annoncé dans un communiqué que toute personne peut demander de faire mesurer l'exposition aux ondes électromagnétiques associées à des objets communicants fixes, en particulier celles liées aux compteurs communicants via le formulaire CERFA, ainsi de suite. Cependant, cette demande ne peut être signée que par un des organismes habilités à solliciter des mesures, collectivités territoriales, associations agréées de protection de l'environnement, fédérations familiales, d'associations familiales. La commune peut donc être sollicitée dans ce cadre. Voilà.
Monsieur Morel,
oui.
Les entreprises qui vont installer ces compteurs sur la commune.
Oui.
On pourra avoir la liste de ces entreprises privées, parce que c'est une entreprise privée mandatée.
C'est...
On ne peut pas avoir la liste des sociétés qui vont intervenir.
C'est que nous.
Mais c'est Enedis qui va vous le dire. Hein? C'est-à-dire que le retour d'expérience engendrait un renforcement du dispositif, parce que les problèmes qu'il y a eu parfois sont issus d'un mauvais serrage mécanique des câbles. Donc il y a un mode opératoire précis qui est délivré aux entreprises de pose avec une norme de serrage imposée. Les entreprises de pose doivent équiper leurs techniciens d'un tournevis dynamométrique qui garantisse le couple de serrage. Un système de pénalité a été mis en place auprès des entreprises de pose en cas de constat de mauvais serrage. Bon, c'est encadré.
Voilà, concrètement, c'est obligatoire. Si je contreviens à cette obligation, je peux être condamné. Et les mesures faites par les autorités compétentes disent qu'on est dans des appréciations qui sont vraiment aux antipodes d'un risque supposé, mais qui est légitime. De principe de précaution qu'on peut éviter les uns et les autres.
D'abord, je voudrais vous dire que les gens qui s'opposent au compteur Linky, qui sont très très nombreux aujourd'hui, puisque c'est un grand mouvement en France et même sur notre commune, puisque voir le nombre de gens qui nous interpellent sur ce sujet, ne sont pas que par rapport aux ondes magnétiques. Le second problème, c'est le problème des relevés de données de votre façon de vivre qui vont être ensuite commercialisés. Donc ça, c'est un des principaux problèmes du compteur Linky, au-delà du problème des ondes. Et ça, c'est le problème majeur qui inquiète les gens. Alors, ce qu'on demande à la commune, c'est pas de dire de s'y opposer, parce que, évidemment, il y a la commune qui a voulu s'y opposer et a été condamnée. Par contre, il y a aujourd'hui 400 communes qui ont délibéré pour dire qu'ils soutiendraient les gens qui ne le veulent pas et qui le feraient savoir, ça veut dire que les gens qui ne le veulent pas, ils font une démarche auprès de la commune et la commune les soutient, comme ça a été dit, c'est possible, dans leur démarche de le refuser. Et qu'il y ait une transparence, c'est-à-dire que ce soit annoncé, que les compteurs seront posés de telle date à telle date, que les choses soient faites. Voilà, la commune elle peut intervenir à ce niveau-là, c'est sur cela que moi je vous interpelle. Voilà, que les choses, on ne vienne pas leur poser le compteur en catimini, comme ça s'est fait dans d'autres régions. Alors, voilà, donc la commune peut jouer ce rôle-là.
Alors, monsieur Bourguet, je ne vous ai pas lu in extenso les précautions que nous prenons. Concernant la sécurité des données et la protection de la vie privée, il y a la Commission nationale de l'information des libertés qui a strictement encadré la collecte des données, notamment sur leur nature. Ces données, elles sont cryptées et transportées et stockées au sein d'un système homologué et audité par l'Agence nationale des systèmes d'information, la NSSI. C'est-à-dire que, concrètement, ni vous ni moi ne pouvons savoir la nature des relevés qui ont été faits chez votre collègue, chez votre voisin. C'est tout. Donc, on est...
Oui, mais c'est pas vrai, puisque... Non, mais c'est pas vrai dans le sens où... C'est le principe de mettre ces compteurs LinkedIn, ça leur coûte cher de les mettre. S'ils les mettent, c'est qu'il y a une raison derrière. C'est justement pour utiliser ces relevés. Donc, ils disent qu'ils vont les utiliser pour nous rendre un service, ils vont nous expliquer qu'on regarde la télévision trop longtemps le soir. Ça, c'est très bien. Mais ça veut dire que ces relevés vont servir, vont être utilisés. Donc, moi, je pense que c'est à partir du moment où il y a une masse de gens, parce que là, on est dans un mouvement, moi, je vous le dis, on est dans un mouvement d'ampleur populaire, et une très grosse masse de gens qui sont inquiets par rapport à ça. Et je pense que la commune peut les protéger sans interdire le compteur Linky en disant, voilà, à Mobio, comme dans 400 autres communes, si vous ne voulez pas le compteur Linky, venez nous voir et vous n'aurez pas le compteur Linky.
Non, moi je n'ai pas d'initiative pour ou contre le compteur Linky, c'est obligatoire au point. On vous dit que les données sont stockées, elles sont secrètes. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis pas, j'entends pas, je n'en vis pas. Mon rôle, c'est d'appliquer la loi. Qui ne semble pas. Vous ne vous situez pas sur un champ magnétique, vous vous situez sur un champ éthique. Or, il y a une commission dédiée à cela qui, semble-t-il, fait plutôt bien son travail.
Non, mais là, en l'occurrence, moi, je n'ai pas de position personnelle. Hein. Je vous le dis franchement, j'ai juste une position de citoyen parce qu'il y a énormément de citoyens qui s'inquiètent sur ce sujet.
Vous voyez quand même la participation des citoyens dans certains cas. Rassurez-moi. Monsieur Bourguet, rassurez-moi.
Moi, je suis à l'écoute des gens, c'est tout.
Et nous.
Voilà.
Voilà.
C'est ce que, je vous demande. Voilà.
Monsieur Bourguet, vous faites part d'une crainte. Ce que je vous ai lu est de nature à vous rassurer. Personnellement, moi, ça me rassure. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est l'État et la Commission nationale de liberté. Bon, à laquelle je suis très attaché, comme vous. Voilà. Bon, écoutez, au moins, le fait que vous ayez posé la question nous a permis de poser, de mettre à l'ordre du jour une information que tout le monde ne détenait pas. Voilà.
Il y a une loi européenne qui est sortie, ça s'appelle la RGPD, hein, c'est le droit à l'information de chacun. Hein, on est tous responsables de l'information. Si on décide de ne pas donner des informations, ils ne donnent pas.
Mais là, on n'a pas le choix.
Non, mais le choix est de garder vos informations. Vous êtes en droit de refuser de donner vos informations. C'est une loi européenne.
Bien. Voilà.
Merci.
Le sujet qui est clos. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.